I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et si les pires moments pouvaient nous conduire aux moments les plus magiques? C'est ce dont nous allons parler avec mon invité du jour. Allez, c'est parti. Bonjour mes champions, c'est Bertrand, bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons de course à pied, mais surtout de mouvement et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité. Il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kg. Après un rééquilibrage alimentaire et la reprise du sport, j'ai perdu 27 kg, je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres avec des personnes inspirantes. Et cette semaine, je dois vous dire que j'ai découvert le parcours de mon invité avec une photo qui est pas très positive au départ. En fait, c'était une série de photos sur son compte Instagram, celle de son vélo de triathlon détruit après un accident, celle de son lit d'hôpital qu'il n'a pas quitté pendant 2 mois. Mais le but de cet épisode n'est pas de parler de l'accident en lui-même, même si on en parle un petit peu, mais de ce qui s'est passé après. Un trek au Népal qui l'amène face à l'Everest pour un moment magique. Cet épisode nous a permis d'aborder de nombreux sujets sur les parcours de vie, la blessure, la résilience, l'arrêt volontaire du sport, le tourisme de masse dans l'Himalaya, les influenceurs, le stoïcisme, la chance ou la malchance dans le sport. Il nous a même parlé d'un certain Teddy Riner que mon invité a pu croiser sur les tatamis. C'est donc un épisode un petit peu philosophie de vie que je vous propose et une discussion très riche. Et puis il nous en parlait de son podcast, car si Loïc a plusieurs talents, il a celui d'être podcasteur avec Les Frappés. Un podcast dans lequel il reçoit chaque mardi des aventuriers, entrepreneurs et sportifs pour parler de leur détermination, de leurs projets, de leur parcours. Nous avons plusieurs invités en commun, comme Lilian Doza, Steven Lyaric ou encore Vanessa Morales que j'ai reçu dans Sport et Nutrition. Voilà pourquoi, à la fin de cet épisode, je vous invite à aller jeter une oreille aux Frappés. Je suis sûr qu'ils vous accompagneront dans de nombreuses sorties. Allez, c'est parti pour ma discussion avec Loïc. Salut Loïc.
Salut Bertrand.
Comment vas-tu?
Eh ben écoute, super. Et toi?
Ah bah écoute, la grande forme, moi je suis parti courir tout à l'heure, alors pas très longtemps, mais j'ai eu le temps d'écouter un petit bout d'épisode de ton podcast, donc je me suis dit tiens, j'ai révisé un petit peu mes petites bases, etc. pour voir, on en parlera du podcast, hein, mais en fait, je vais rentrer dans le vif du sujet, tu vois, tu te présenteras après. Je t'ai lancé l'invitation parce qu'un jour j'ai vu une histoire avec ton vélo fracassé, et puis l'histoire après, 18 mois après, tes aventures, et je me suis dit quand même, c'est un sujet qui est super intéressant parce que ça montre, je trouve, ça raconte l'histoire de ce qu'on est capable de faire alors qu'à un moment donné, tu es au fond du trou et que finalement, 18 mois après, tu es à un endroit où tu imaginais peut-être pas être.
Carrément, bah écoute, ouais, merci beaucoup. Je m'attendais pas à ça quand j'ai publié cette photo, tu vois, sur les réseaux. Si ça t'a inspiré l'idée de cette conversation, bah moi je suis ravi et puis j'espère que ça sera intéressant pour au moins quelques-uns de tes auditeurs et tes auditrices.
Ouais, alors l'histoire, c'est que tu as failli te faire écraser en vélo alors que tu préparais un Ironman.
C'est ça. Exactement, donc c'était en 2018, si on rentre dans le détail. Donc je préparais mon premier Ironman, l'Ironman de Zurich en l'occurrence, puisque je venais d'arriver en Suisse. Mmh. Avant ça, je vivais sur Paris. Puis bon, je suis un ancien sportif de haut niveau en judo. Et puis quand j'ai fini par réussir à me reconvertir, j'ai fait un peu comme toi, j'ai découvert la course à pied, tu vois, un petit 10 km, puis un semi, un marathon, la Saint-Élion. Ça m'a amené sur du triathlon. J'ai fait le semi Ironman d'Aix. Et puis on va dire que la suite, entre guillemets, logique, ça a été l'Ironman. Et donc, je préparais cet Ironman de Zurich, donc depuis déjà plusieurs mois. Et je faisais une sortie, j'habitais à Bâle, donc pas très loin de la frontière française. Et donc je faisais une sortie, je voulais faire Bâle-Zurich en vélo, ce qui fait 90 km à peu près, et potentiellement le retour. Et puis en fait sur cette sortie, donc on était fin mai, 27 mai exactement, on était à un mois et quelques semaines du début de l'Ironman, du départ de l'Ironman. Puis je me suis fait percuter, bah, comme tu l'as dit, par une voiture à 9h35 dimanche matin, pour être tout à fait précis. Et en fait, cette voiture, dans un rond-point, m'est rentrée dedans à 50 km/h. Et là, tout a été instantanément fini. Donc j'ai eu beaucoup de chance puisque elle a tapé en fait. Donc moi, j'étais déjà dans le rond-point. Elle m'a tapé, si tu veux, sur le côté. Donc je me suis pas retrouvé accroché, je suis pas passé sous la voiture. Par contre le vélo, oui. Moi j'ai été projeté à 4-5 mètres de là et en tombant, voilà, grosse fracture du bassin, allongé pendant quasiment 2 mois. Et évidemment l'Ironman terminé à ce moment-là. Et donc la photo que j'ai postée, s'il y en a qui l'ont pas vue, c'est une photo avant-après en fait de mon vélo, une photo avant où il est tout joli, prêt à la sortie dans le salon, et la photo après quand je le récupère au commissariat de police. 3-4 mois après peut-être, où il n'y a absolument pas une seule pièce qui est réutilisable, donc de la selle en passant par les pédales, le cadre, le pédalier, enfin il y a absolument le guidon, tout est cassé en fait. Voilà, et donc la réflexion c'est qu'après après cet accident, la réflexion qu'il y a eu derrière ce poste, c'est en fait justement comme tu dis la résilience, et puisque moi c'est un des thèmes de mon podcast, après cet accident où il y avait un gros risque d'opération, on m'a annoncé en Suisse, les médecins m'ont annoncé que il y aurait très certainement des conséquences en fait pour ma pratique du sport. Je suis un gabarit assez lourd, je fais 1m91. Quand je m'énerve un peu trop sur le sucre, je suis pas très loin de ton poids de quand tu étais un hamster fainéant, de ce que tu disais. Donc autour des 100. Et donc voilà, ils m'ont expliqué que potentiellement il y a certaines choses qui seraient plus possibles. Et j'étais très heureux 18 mois plus tard de finalement leur prouver que c'était le cas.
C'est drôle, quand tu parles de ton poids, ta taille, parce que quand on voit ce que tu fais là, Ironman et tout, et tu dis que tu étais au judo, mais finalement au judo, tu étais dans quelle catégorie ?
Alors j'étais en moins de 90 kilos pendant longtemps, sachant que la dernière année, donc j'étais en équipe de France cadet junior, hein, pour préciser, donc on va dire la pré-équipe de France. Et quand j'ai, en tout cas après équipe de France senior, mais quand j'ai arrêté pour mes études, la dernière année donc de compétition, j'avais fait un régime sur 12 mois, puisqu'il y a un enjeu de poids en fait en judo, hein, forcément. Oui. Si tu fais 88 kilos dans ta catégorie, mais que le bonhomme d'en face, son poids naturel c'est 92 et qu'il fait un régime pour en perdre 2, t'as quand même quelques kilos de plus à bouger, tu vois. Donc voilà, il y a une notion de poids. Et quand j'ai arrêté cette dernière année, en fait, j'ai pris 5 kilos en 2 semaines. Donc je pense que mon poids de forme était déjà autour de 94-95 kilos. Mais voilà, j'ai été l'essentiel du temps en moins de 90 kilos.
D'accord. Bon, parce que quand on se voit comme ça, on voit des sportifs et tout. Mais en fait, ceux qui n'ont jamais vu un Ironman, ils se rendent pas compte que sur un Ironman, il y a de tous les gabarits. Alors bien sûr, les premiers, ils ont l'air d'être frêles comme des petites feuilles, là, mais ils sont tout musculeux et tout. Mais moi, j'ai des souvenirs d'avoir vu des mecs, des grandes baraques qui couraient, mais avec un espèce de pas très léger, puis d'avoir des trucs très légers à côté qui couraient avec un pas lourd, fatigué, etc. Donc, c'est pour ça que je dis, parce que finalement, ça t'interdit pas de faire des sports d'endurance où on a cette logique de dire il faut être plus léger, les grands gabarits sont gênés sur un vélo, parce qu'on voit des cyclistes qui sont des fois tout petits aussi, des choses comme ça et tout. Finalement, tu peux tout faire.
Bah, carrément. Carrément. Et puis je pense que après, l'objectif, moi l'objectif quand j'ai commencé à faire du long, c'était pas des chronos, tu vois. Forcément que je pense qu'il y a certaines disciplines où ta physiologie, ta morphologie fait que tu peux être avantagé. Si ton objectif c'est de faire un chrono ou de performer, voilà, sur un Ironman, je crois pas qu'on ait déjà vu des gars de plus de 100 kilos faire des perfs, tu vois, finir sur des podiums. Par contre. Je sais pas d'ailleurs, peut-être, hein, mais je pense pas. Mais il y a d'autres sports où c'est voilà ce type de profil, on va dire, serait un avantage. Moi, je me fais. En fait, c'est marrant parce que quand j'en discute avec des amis sur le fait que je me suis recyclé entre guillemets, tu vois, sur des sports où on retrouve pas forcément mon gabarit le plus souvent, on va dire, où je suis pas trop dans la moyenne. En fait, ce que je leur dis, c'est que moi, je me considère jamais comme au judo, on dirait un lourd ou un gros. Bah tu vois. C'est-à-dire que quand je fais mes sorties, je me dis pas, ah ouais, mais bon, là, moi, je peux pas viser un 10 km en 45 minutes parce que je suis un gros ou un lourd, tu vois. Ça, en fait, c'est la contrainte, entre guillemets, de ma physiologie. Elle m'a jamais vraiment bloqué, c'est jamais quelque chose que j'ai pris en compte de manière consciente en tout cas, tu vois. Je me dis, bon, je vais aller m'éclater, il y en a qui arrivent à faire 10 km en 45 minutes, je vais le faire, tu vois. Ou je vais essayer en tout cas. Donc, mais ouais, je suis d'accord avec toi, ce qui est chouette, c'est que sur des formats un peu ouverts à tous, amateurs, comme le triathlon, c'est vrai que tu as tous les gabarits en fait.
Même sur la natation, t'as pas. Parce que la natation, il y a quand même une question de flottaison, d'équilibre. Ouais. Moi, je le dis parce que moi, je suis team footballeur gros mollet. Et donc, ça pèse. Non, mais soyons honnêtes. Alors, je suis sauvé par mes palmes qui font du 47, mais je sais pas me servir de mes pieds. Donc, de mes jambes. Et j'ai une tendance à vouloir les battre justement parce que j'ai des palmes. Je me dis, ça va avancer plus vite. Donc, je m'épuise, je coule, tout mon corps coule. Et puis, il reste plus que la tête qui essaye de dépasser. Mais je veux dire, même sur la natation, est-ce que t'as un truc où t'es plus à l'aise que l'autre? Parce que t'as dit que t'as fait la Saint-Élion quand même. La Saint-Élion.
Ouais.
Enfin, c'est la course la plus fun du monde. Je veux dire, partir comme ça pendant l'hiver, en pleine nuit, 76 bornes dans la boue, sans rien voir, avec la flotte. Je vous rappelle quand même que c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Forez. Hein, c'est des petites montagnes qui n'ont pas l'air comme ça, mais il y fait froid, il gèle, etc. Donc, c'est une course super engageante et tout. Ça fait rêver, quoi. À côté de ça, tu as dit donc l'Ironman, vélo, natation, etc. Tu as un sport dans lequel tu es plus fort? Ou finalement, est-ce que c'était plus facile d'en aborder certains? Est-ce que tu as eu des difficultés dans certains ou d'autres?
C'était vraiment difficile pour moi en natation. Et j'ai eu beaucoup de mal à me l'admettre parce que en fait, j'ai toujours grandi à côté de la mer. J'ai grandi en Nouvelle-Calédonie, puis ensuite, une fois qu'on était de retour en France métropolitaine sur la Côte d'Azur. Donc, tu vois, j'ai toujours l'eau, ça a toujours été mon élément. J'ai fait de la voile étant petit en même temps que le judo. Ça sert un peu à rien d'avoir grandi près de l'eau si tu sais pas nager, en fait, s'il y a pas de technique.
Oui.
C'est pas que je savais pas nager, tu vois, mais faire un crawl 25 mètres, j'y arrivais, je pense que je cramais 20 000 calories pour arriver au bout de la longueur et je pouvais plus respirer une fois que je touchais la margelle, tu vois. J'avais vraiment pas la technique. Et en termes de, je pense qu'il y avait un peu d'ego quand même. Ça a été assez compliqué d'accepter ça, de me dire que bon, en fait, il va vraiment falloir que j'apprenne à nager, quoi, même si je suis hyper à l'aise dans l'eau à côté de ça. Donc, ouais, la natation, ça a vraiment été, difficile. Et étonnamment, d'ailleurs, les meilleurs entraînements que j'ai pu faire en natation ou ceux où j'ai eu les meilleurs chronos, c'est des entraînements sur lesquels j'étais complètement explosé de la veille parce que j'avais fait une grosse sortie vélo, tu vois, une grosse sortie run. Et que du coup, je pense que musculairement, j'étais complètement, même psychologiquement, tu vois, j'étais tellement détendu, encore fatigué de la veille, qu'en fait, j'avais beaucoup plus de fluidité dans les mouvements. Et au final, de ce que j'ai pu comprendre, hein, parce que je suis pas du tout un grand nageur, mais de ce que j'ai pu comprendre et ce dont j'ai pu faire l'expérience, c'est que finalement, tu es plus efficace quand tu arrives à avoir un certain niveau de détente musculaire quand tu nages. Voilà. Mais bon, écoute, la natation, c'est ce qui a été assez compliqué pour moi. Mais au final, une fois que j'ai eu la technique, cette première épreuve sur les trois, c'était généralement une épreuve que j'appréciais bien, tu vois, parce que c'est pas violent musculairement. J'exagère un peu quand je dis ça, mais c'est l'échauffement, quoi. C'est ce qui te met un peu, t'as le temps de te mettre dans ta bulle parce que tu vois pas vraiment tes concurrents, à moins que tu te prennes un talon dans la tête parce que t'es un peu trop près du gars de devant. Mais je trouve que la natation, c'était l'épreuve, pas la plus agréable, mais une épreuve que je trouvais sympa, en tout cas sur les triathlons. J'avais beaucoup plus de mal au final en termes d'effort sur la course à pied. J'ai toujours trouvé la course à pied sur les triathlons que j'ai fait super difficile à la fin, avec pas mal de problèmes gastriques aussi, ce qui apparemment est assez commun.
Bah oui.
Donc la natation, ça allait, mais c'est vrai que la course, finir sur la course, ça a été sur les quelques triathlons que j'ai fait plus compliqué par contre.
Non, mais après, c'est normal aussi parce que la course, c'est quand même un sport où tu ballottes tout ton ventre. Tout ce qu'il y a dans le ventre est ballotté. La natation, finalement, tu te ravitailles pas sur des distances assez longues. Le vélo, tu te ravitailles, mais t'es porté. Donc, tu peux te ravitailler, ça te ballotte pas. Par contre, la course, c'est un sport qui est traumatisant au niveau des intestins, au niveau de, y a tout ce qu'on appelle les phénomènes d'ischémie et compagnie aussi, qui sont normaux. C'est-à-dire que ton intestin, il arrête de fonctionner comme il faut, puis il y a des moments où ça repart, ça revient, etc. Et puis c'est ballotté, il y a des lésions dans tous les sens. Donc c'est pas illogique, surtout quand on pense qu'avant, t'as déjà fait sur un Ironman de la natation pendant 3,8 km et que t'as roulé 180 bornes, faire un marathon à ce moment-là, c'est logique et ce soit compliqué. C'est logique, hein, soyons honnêtes. Finalement, je t'ai même pas demandé, ton Ironman, tu l'as fait ?
L'Ironman de Zurich, non, du coup, je ne l'ai pas fait. J'étais dans un lit d'hôpital. Je ne l'ai pas refait l'année suivante parce que j'avais encore, je ne me sentais pas encore vraiment 100% remis pour repartir sur un... Pas forcément sur l'épreuve elle-même, mais plus sur les mois d'entraînement précédents. Mm. Et puis, peut-être qu'on en parlera, mais en fait, cet accident, ça a aussi été l'occasion de moi réfléchir à ma pratique et à ce qui me, aux raisons qui faisaient que j'avais pu me lancer dans le défi de l'Ironman. Et donc, non, 2019, ça n'a pas été l'année où je me sentais ni prêt ni motivé à reprendre. Mm. Et après 2020-2021, bon, il y a eu la situation sanitaire qui de toute façon est venue s'en mêler. Mais je pense qu'un jour, là, il y a l'Ironman, je suis à Aix maintenant, Aix-en-Provence, il y a un full Ironman qui vient d'être créé. Mm. Donc si un jour je décide de prendre le départ, ce sera certainement sur celui-ci.
Ouais, je le dis pour ceux qui s'intéressent, hein, les inscriptions sont ouvertes. Mais ça, tu le sais, toi. alors bon, là on a parlé de ça, mais c'est vrai que la photo dont on parlait tout à l'heure sur ce vélo détruit, ensuite elle aboutit 18 mois après sur l'Himalaya.
Exactement. Donc 18 mois après, bon là on va dire que j'étais en tout cas d'un point de vue extérieur pour quelqu'un qui savait pas qu'il y avait eu l'accident, complètement rétabli, donc pas de béquille, etc. Une pratique, j'avais pu reprendre la course de façon assez régulière autour de chez moi en Suisse. Et puis, en fait, quelque chose que je fais depuis longtemps, même quand je faisais déjà du judo, une activité outdoor, c'est le trek. Donc, j'aime bien partir, dans des coins généralement un peu hostiles, si on peut dire ça, ou en tout cas qui demandent un peu d'engagement. Donc, j'ai fait le GR20, tu vois, deux fois, une fois en 7 jours. Je vais faire un super trek en Suède qui s'appelle le Kungsleden, qui est un trek dans le cercle polaire suédois. Et puis après cet accident, du coup, en fait, je me suis rendu compte que ça faisait un moment que j'avais plus de projet de trek, en fait. Et que finalement, chaque fois que j'étais parti sur ces aventures, j'avais pris beaucoup plus de plaisir, en tout cas, c'était mon sentiment, que ce que j'avais pu en prendre sur la préparation de l'Ironman. Et c'est là où la réflexion a commencé, où je me suis dit peut-être que ça serait l'occasion finalement, cet accident, de me faire un gros projet, un truc qui a vraiment du sens pour moi et que j'aurais plaisir à partager. Et puis c'est comme ça que l'idée de partir en Himalaya est venue, d'aller voir le Mont Everest pour la première fois. Et donc c'est ce que j'ai fait 18 mois après l'accident. Je suis parti pour tout te dire, en fait, je suis parti tester un itinéraire. Parce que je fais du test de matériel pour un site qui s'appelle iTrekking depuis pas mal de temps. Et là, comme je savais que je voulais aller en Himalaya, l'agenda était assez... je me suis décidé, on va dire, peu de temps à l'avance. Et puis financièrement, je voulais essayer de trouver une solution pour que le voyage ne coûte pas non plus super cher. Donc, je suis parti tester un circuit, en fait. Donc, j'avais un guide et on est parti sur 3 semaines. Donc, depuis Lukla... s'il y en a qui connaissent l'aéroport de Lukla, si vous ne connaissez pas, c'est l'aéroport qui était classé comme étant le plus dangereux au monde depuis, je crois, 10 ans d'affilée, un truc comme ça. Et atterrir là-bas, ça, c'est une expérience, ça vaut le coup. Je mettrai peut-être quelques vidéos, mais ouais, c'était intéressant comme expérience. Et donc, on est parti de cet aéroport de Lukla, qui doit être à 1h30 de vol de Katmandou, je pense. Ou si vous le faites comme moi en mode jeep, 12 heures de jeep. Et on est parti 3 semaines. On est passé par Namche Bazar, donc qui est le village de montagne historique d'où sont parties toutes les expéditions pour l'Everest, côté népalais. Et on a fait... moi, je voulais faire un circuit qui ne soit pas non plus super touristique. Et généralement, pour éviter qu'il y ait du monde, il faut qu'il y ait une dimension sportive un peu engagée. Tu vois. Donc là, c'était le cas. Il n'y avait pas grand monde parce que la plupart des gens, ils partent de Namche Bazar. Si vous ouvrez une carte, vous regardez, il y a Namche Bazar et ils partent directement, en fait, ils remontent la vallée du Khumbu, donc du glacier du Khumbu, jusqu'à l'Everest. C'est peut-être 4-5 jours de marche, max. Ou alors, il y a une alternative qui est de faire une grande boucle avant d'y arriver, qui dure 3 semaines en tout. L'intérêt, c'est que il y a beaucoup moins de monde. La raison pour laquelle il y a beaucoup moins de monde, c'est qu'on est en permanence au-dessus de 4000 mètres. Donc 4200 mètres, 4500 mètres, avec 3 cols à passer à plus de 5200 mètres. Donc ça fait assez haut. Tu vois, c'est le genre d'altitude où tu te grattes le nez, il te faut 2 minutes pour reprendre ton souffle, tu vois, parce que tu sens vraiment le manque d'oxygène. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et donc le point culminant, on va dire, en tout cas pour moi, là où je me suis vraiment dit bon, ça y est, la page est tournée, l'accident est derrière moi, et je suis en train de montrer que, en tout cas de me montrer à moi, j'avais pas l'impression qu'il fallait que je prouve à qui que ce soit quoi que ce soit, mais j'avais le sentiment que, voilà, il était temps de me prouver que je pouvais refaire une pratique engagée, et que même après l'accident, même s'il y avait des séquelles ou qu'il allait y en avoir à un moment donné, parce qu'il y en aura, je pouvais quand même réaliser certains de mes rêves. Et donc, au bout de peut-être une semaine et demie, on a passé un col à 5400 mètres. On était parti à 5 heures du mat, d'une altitude de 4200 mètres. Donc déjà, vous voyez que ça fait un gros dénivelé. Je vous garantis qu'on le sent passer à ces altitudes. Au départ, si tu veux, un peu comme quand tu prends le départ d'une course, tu te sens super bien, tu n'avais pas forcément prévu d'avoir un certain rythme, tu vois. Puis tu te sens tellement bien que tu te laisses un peu emporter, tu te dis, allez, go, je voulais courir en 5 minutes du kilomètre, allez, je vais le faire en 4:30, tu vois. Je passe dans le sas d'avant.
Tu as pris le mur, là, après.
J'ai pris le mur, mais en tout cas, je me suis dit, après qu'on soit parti, je vais arriver au lever du jour, le premier au col, et m'offrir l'Everest. Solo, tu vois, le point de vue sur l'Everest solo. Et donc c'est ce que j'ai fait. On a fait au final, je suis pas arrivé au lever du soleil parce qu'on a dû marcher peut-être 3-4 heures, mais je suis arrivé le premier, et j'avais donc à ce col face à moi à l'Everest, complètement dégagé. Là, ça a été un super moment d'émotion, en fait, de voir que tu vois, 18 mois plus tard, je me retrouvais ici, que j'avais récupéré suffisamment pour le moment pour faire ce genre de choses, et puis surtout que je m'étais autorisé à le faire, et que j'avais mis toutes les conditions en place pour le faire. Ça, ça a été le super moment. Et après, effectivement, je me suis pris un mur, mais parce que je manquais d'expérience. En fait, je ne savais pas que j'étais déjà allé en altitude, mais pas aussi longtemps. Et en fait, ton organisme met à peu près une heure et demie à prendre en compte les effets de l'altitude. Donc, quand tu montes haut et fort, et là, ça a été le cas, tu vois, on était monté assez rapidement. Moi, j'étais monté plus rapidement que les autres même. Et je suis resté assez longtemps en col, puisque du coup, j'attendais le reste du groupe, et puis je voulais kiffer, je prenais des photos. Je me suis aussi assis à un moment donné, tu vois, j'ai pris quelques minutes pour moi, réfléchir à ce que ça voulait dire, comment est-ce que j'allais me servir de cette expérience, qu'est-ce qu'elle voulait dire sur moi, sur mon état d'esprit. Bref, je suis resté une heure et demie là-haut. Et du coup, quand on a commencé à redescendre vers le village de Kokyo, qui est aussi à 4200 mètres, en fait, là, je me suis pris un coup de bambou monstrueux à cause de l'altitude. Donc, énorme maux de tête, nausée, t'as le ventre coupé en deux, essoufflement, enfin vraiment le mal d'altitude, pas cool, quoi. Et le problème, c'est que je marchais avec un couple d'amis, et un autre randonneur suisse. Et donc, sur les quatre, on a été trois à se prendre un gros contre-coup du mal d'altitude, dont un qui pouvait plus avancer, tu vois, qui pouvait plus porter son sac, qui vomissait. Voilà. Donc là, c'est la partie un peu moins fun de la journée, parce que faut gérer ça. Il n'y a pas une ambulance qui peut venir te chercher, tu vois. On est à 4 jours de marche du premier village avec un aéroport. Mais on va dire que la première partie de la journée était exceptionnelle et pleine de sens pour moi.
Tu y es retourné après ou ?
Je ne suis pas encore retourné. J'ai gardé des contacts avec des guides avec qui j'ai vraiment bien accroché, et puis qui nous ont fait visiter Katmandou quand on est revenu du trek. Donc j'ai une liste de circuits. Encore moins touristique que ce qu'on a fait, parce que voilà, la vallée de l'Everest, pour être honnête, même si on avait peu de monde sur notre circuit à nous, c'est vrai que c'est quand même, tu te rends compte vite que c'est super touristique, quoi. T'as des hélicoptères qui font aller-retour toute la journée. Le camp de base de l'Everest, t'as un hélico qui se pose en face. Nous, quand on y était, j'exagère pas si je te dis toutes les demi-heures, quoi, tu vois. C'est vraiment, c'est dingue. Donc, je compte bien y retourner, mais dans des coins peut-être plus isolés encore.
Ouais, mais même si l'Everest est trop touristique, mais après, et on le dit en plaisantant, enfin, je dis même pas en plaisantant, c'est que avec le Covid, on en parlait tout à l'heure, mais ils ont eu des cas de Covid sur les camps de base, etc. Ils ont eu plein de soucis de dire non, faut pas monter, faut arrêter, parce que le tourisme, tout s'est importé aussi là-bas, etc. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai tourisme hein, autour de l'Everest. On a l'impression qu'il y en a plein qui sont remontés l'Everest maintenant. Alors je parle même pas du Mont Blanc parce que l'Everest, il y a encore un truc, mais le Mont Blanc, j'ai l'impression que tout le monde dit un jour j'ai monté le Mont Blanc. C'est pas ton cas, toi?
Non, non, non.
Non. Bon, mais après, tu vois, t'as des influenceurs. Thibaut Inchep, il a monté le Mont Blanc. Alors tu te dis bon attends, t'as pas de physique, etc. T'as un truc qui a monté et tout. Puis t'as l'impression, tu vois, qu'à chaque fois il rajoute des trucs et tu te rends compte que finalement ça devient super touristique comme destination, alors que c'était à une époque. Enfin, c'était des vrais aventuriers qui montaient là-haut. Enfin, il fallait quand on a les récits des tout premiers, même de certains, etc. Et tout. Et voilà. Et maintenant, ça, quand on dit qu'il y a du tourisme avec des hélicoptères qui passent toutes les demi-heures, etc., ça paraît dingue quand même.
Ouais, carrément. Et honnêtement, je pense pour des personnes qui sont sensibles, tu vois. Bon, en même temps, c'est un peu un paradoxe ce que je vais dire, parce que moi j'y suis allé, donc forcément j'ai pris l'avion pour aller là-bas. J'ai pris 3 avions en l'occurrence avant d'arriver vraiment à cet aéroport de Loukla. Donc évidemment que moi j'ai eu un gros impact, mon impact environnemental il n'a pas du tout été nul, mais c'est vrai que quand tu es quand même un peu sensible à ce type de sujet, je m'attendais à ce que ce soit touristique, hein. Forcément je pensais pas que ça allait être que des yaks et puis des habitations traditionnelles comme il y a 50 ans, mais je m'attendais pas à ce que ce soit touristique à ce point, tu vois.
Ouais.
Dans toute la vallée d'Everest tu peux acheter des cartes internet. C'est-à-dire que t'as, en fait, t'as internet où tu veux, en fait, dans toute la vallée d'Everest. Ça coûte une blinde, mais si tu veux ta connexion 4G, y a pas de problème, quoi. Il y a un service qui existe pour ça, t'as ta connexion 4G. Les hélicos, et puis juste le monde, quoi. Tu vois, il y a des gens, en fait, ils atterrissent à Katmandou, ils prennent l'hélico à Katmandou, ils arrivent au camp de base, et puis ils repartent, quoi. Ils font leurs photos et ils repartent. Et c'est vrai que ça dénature un peu le truc, tu vois. Et nous, sur le circuit, on a fait une semaine et demie où on était vraiment, on voyait pas tout ça, en fait, parce qu'on était en dehors de l'axe principal. Et dès la journée où on s'est retrouvé, c'était l'Amada Blanc, je crois, qu'on avait en ligne de mire, qui est une magnifique montagne que, franchement, j'en suis tombé amoureux, juste incroyable. Allez regarder Amada Blanc. Et en fait, quand on voit l'Amada Blanc depuis ce circuit, on rejoint l'axe principal du sentier en fait qui va vers le camp de base de l'Everest. Et là, mais c'était, enfin, je te jure, c'était passer d'un single trail perdu dans la forêt à l'autoroute, quoi. C'était un truc de fou. Et c'est sûr que ouais, ça surprend, ça surprend. Et initialement, j'avais envisagé en fait de faire le tour des Annapurna. Et puis en me renseignant, j'ai vu que apparemment j'y suis pas allé, donc je peux pas, je sais pas, mais ce que j'ai pu lire en tout cas sur le net et glaner comme info, c'est que il y avait une route qui avait été construite tout autour pour approvisionner les villages, etc. Et qu'en fait aujourd'hui le tour des Annapurna, tu marches quasi essentiellement sur une piste, quoi. C'est peut-être pas le cas, mais en tout cas les infos que j'ai trouvées, c'est ce que ça laissait penser, tu vois. Mais bon, là tu te dis, ah, dommage, quoi. Dommage, si j'ai pu le faire il y a 20 ans, quand c'était vraiment encore complètement préservé. Mais bon, ouais, au revers de la médaille.
Ouais, c'est l'évolution du monde tel qu'elle est. C'est vrai que mais on le voit sur plein de photos, on le voit sur plein de trucs. On se moque des influenceurs. Moi, je travaille un peu dans les influences touristiques. On se moquait des influenceuses qui descendaient de la voiture. T'as l'impression qu'elles avaient marché des heures, tu sais, pour même venir voir les volcans d'Auvergne. Et puis en fait, quand tu connais le truc, tu sais qu'elles ont juste sorti la voiture. Elles ont posé le trépied, elles ont fait 3 pas, elles font la photo et elles repartent. C'était des...
Ouais.
Mais je vais raconter une anecdote parce que quand même, pour que les gens se rendent compte hein, de ce truc-là. Un jour, un truc touristique qui avait fait venir, avait payé des influenceurs, un couple d'influenceurs. Ils faisaient des treks officiellement, etc. Et puis, ils leur font visiter la ville de Clermont. Alors, Clermont-Ferrand, pour ceux qui connaissent pas, c'est une ville où il y a que des petites collines. Ils ont eu l'idée de leur faire monter jusqu'à la cathédrale. Attention, c'est pas une rue qui monte beaucoup, mais ils ont pas réussi à la monter sans s'essouffler. Alors, à un moment donné, ils se regardent et ils disent, attends, vous êtes censé avoir fait des treks, vous êtes censé avoir fait ça, et on fait monter. Alors, c'est sûr, il y a peut-être 20 mètres de nivelé, 30 mètres de dénivelé, je sais pas, c'est un peu raide, mais bon, même en courant, moi, j'arrive à le faire, tu vois. Et Il y a un moment donné, tu sais, tu te dis, il y a quand même des gens qui arrivent à trouver des moyens de tricher, tu vois. Quand tu dis, tu peux prendre un hélico, arriver au camp de base, faire une photo, repartir. C'est, dans le récit des gens, ça semble impossible. Et pourtant, c'est aussi l'une des réalités du monde, quoi.
Ouais, carrément. Carrément, ouais, ouais, ouais. Et puis, je pense que, tu vois, c'est ça qu'il faut avoir en tête quand on est sur les réseaux. C'est quelque chose dont on parle souvent avec les invités. Tu vois, tu parlais de l'exemple du Mont Blanc où tu as l'impression que n'importe qui peut faire le Mont Blanc aujourd'hui. Le Mont Blanc, faut pas oublier, tu vois, pour prendre cet exemple particulier, en particulier, que tu as 50% de taux d'échec sur les tentatives d'ascension et qu'il y a des accidents mortels tous les ans, en fait.
Et
que c'est pas juste une promenade de santé, même si on peut avoir l'impression, quand tu regardes les réseaux, que c'est le cas. C'est loin d'être le cas. Et moi, sur le GR20, les deux fois où je l'ai fait, c'était en plein été. Les deux fois, il y a eu des morts. Parce que des gens n'étaient pas préparés. Ils se sont retrouvés en montagne. Ils étaient en Corse. Ils pensaient que c'était, qu'il allait faire chaud et sec. Bah, en montagne, en fait, non. Ils se sont pris un orage de grêle, en l'occurrence, en plein mois d'août. Ils n'avaient pas d'équipement. Ils se sont retrouvés bloqués. Voilà, c'était fini, quoi. Et la fois précédente, c'était. On était tombé sur une Autrichienne. Maintenant, je ne sais pas si tu connais un peu les étapes du GR20.
Non.
Mais t'en as une qui s'appelle, qui était un peu peut-être la plus connue, qui s'appelle le Cirque de la Solitude. Donc c'est un grand cirque très profond. Et donc en fait, quand t'arrives à une extrémité de ce cirque, tu descends tout en bas et tu remontes. C'est pas très long si tu veux. Tu vois la sortie quand tu y rentres, mais c'est assez technique. T'as des passages avec des chaînes, etc. Et on était tombé sur une Autrichienne qui était en bas du cirque, donc complètement tout en bas où tu n'as absolument aucune route d'accès. Tu es obligé de soit de ressortir par où tu viens, soit de continuer. Et elle était en tennis de running, tu vois, des vieilles tennis de running. Et sa semelle s'était détachée du chausson, en fait. Et donc, elle l'avait scotché avec du scotch, tu vois, du tape argenté. Je sais pas ce qu'elle faisait avec ce genre de scotch, mais voilà, elle avait scotché ça au fond et ça ne tenait pas. Donc, elle était assise et elle attendait le PGHM, en fait. Tu vois. Et tu te dis, punaise, mais il t'arrive un truc comme ça, il pleut, t'es sur la descente ou quoi, un passage un peu technique, tu fais quoi? Donc, attention aux pratiques. Enfin, je veux pas du tout donner de conseils, tu vois, c'est pas mon rôle, mais c'est vrai que quand j'en parle avec mes invités, c'est quand même quelque chose qui revient souvent. N'oubliez pas de regarder ce qui se cache derrière le rideau, en fait. Quand il y a des gens qui prennent le départ à l'UTMB, généralement, il y a quelques petites années de sacrifices et d'efforts pour préparer tout ça, et c'est à peu près la même chose, je pense, hein, sur tout type d'expérience à tant soit peu engagée.
Ouais. Et là, j'encourage tous ceux qui se posent la question d'aller sur Google ou Google Images, ils prennent ce qu'ils veulent, ils tapent Cirque de la Solitude, ils regardent les premières photos, ils regardent les gens avec une corde, les sacs à dos et tout, et ils se disent maintenant tu vas en basket, accroché avec du masking tape ou du scotch, et tu te demandes ce qui va se passer. Et enfin, ça paraît totalement incongru, mais après on le voit un peu partout. Moi j'ai vu monter dans mes petites montagnes d'Auvergne des gens monter sur des sommets presque en tongs, alors que ça glisse, etc. Mais ils sont en espadrilles, mais parce qu'il y a un téléphérique qui arrive juste en bas, et puis ils disent, ouais, mais il me reste 100 mètres à faire à pied, mais ils se rendent pas compte à quel point ça peut être escarpé. Enfin, il y a des trucs comme ça. C'est juste hallucinant. Et c'est vrai que on pourrait avoir tendance à penser que ces lieux deviennent faciles, surtout quand on voit les athlètes en trail qui font ça à toute vitesse. Il y en a qui sont en défi de traverser, ils le font 3 jours, en 4 jours. Je parle même pas de ceux qui font les records avec une équipe complète. Mais on en voit même des amateurs, hein, qui finalement se disent, ah ben non, on va le faire en 3 jours, on va faire ça et tout. Et on se rend pas compte de la difficulté. C'est vrai que la Corse, c'est l'un des plus durs, qui est référence à un des plus durs, etc. Il y a plein d'endroits aussi, bon, on le dit, hein, cette année sur l'UTMB, c'était pas l'UTMB en lui-même, mais sur la CCC, c'est la CCC où il y avait un mort.
Je crois, oui.
Ouais, je sais plus, sur laquelle il y a eu un mort, mais avec un passage qui était très technique et très dangereux, etc. Faut pas oublier quand même que la montagne, ça reste quelque chose. On est juste minuscule en comparaison.
C'est clair.
Et que ça peut être un petit peu vu par certains, présenté un peu comme étant sympa, plus facile qu'il y paraît, que tout le monde peut y aller. Mais non, il y a quand même un accompagnement. Tu pars pas dans l'Himalaya comme ça, sans guide, sans préparation. Et d'ailleurs, ça m'amène à ma question. Comment tu t'es préparé pour ce trek, sachant que 18 mois avant, tu étais dans un lit d'hôpital, fracassé du bassin? Je me dis, comment tu passes de « je suis dans mon lit d'hôpital » à 18 mois plus tard à marcher pendant 3 semaines?
Ouais, C'est une bonne question, surtout que bah, forcément, tu t'en doutes, hein, 2 mois dans un lit d'hôpital, ça a des conséquences bah, déjà musculaires. J'ai complètement fondu. Je suis généralement quelqu'un qui prend beaucoup du bas, donc des cuisses. Et là, en fait, j'avais une jambe, la jambe gauche en particulier, que je pouvais pas vraiment solliciter, même une fois que j'ai pu ne plus être allongé. Donc ça a créé plein de déséquilibres. Enfin, tous ceux qui font de la course le savent. Hein. Si tu commences à avoir une douleur quelque part, en fait, même si tu t'en rends pas compte tout de suite, tu rééquilibres inconsciemment ailleurs et voilà, tu finis tout tordu. Et donc c'est ça qui s'est passé pour moi. Et puis j'avais quand même des craintes sur le dos parce que ça m'était déjà arrivé. En fait, j'avais déjà eu une blessure par le passé au dos et je savais que si j'avais pas un dos musculairement solide. En portant du poids, en faisant beaucoup de dénivelé comme je voulais le faire en Himalaya, je risquais d'avoir des douleurs et puis que ce soit pas agréable.
Ouais.
Et puis j'avais surtout envie que ce soit un séjour agréable en fait, ouais. En dépit de l'altitude et puis de la rusticité. Et donc bah je me suis préparé, j'ai fait beaucoup de quelque chose que je faisais pas nécessairement avant, mais beaucoup de muscu. Des squats, tu vois, beaucoup de levées de poids, etc., pour renforcer les abdos et le bas du dos, et puis pour remuscler les jambes. Un truc super, c'est qu'en Suisse, j'avais un terrain de jeu exceptionnel pour tout ce qui est rando. Donc, je me faisais généralement des sorties à la journée avec du gros dénivelé. 1005, 2000 mètres de dénivelé avec un petit peu de poids, tu vois, entre 8 et peut-être 12 kilos max, pour m'habituer à monter et descendre sur des terrains un peu techniques, on va dire. Parce que j'étais jamais allé en Himalaya, mais de ce que j'avais compris de la typologie du circuit qu'on allait faire, c'est qu'il y avait quand même des passages assez techniques. Avec des pierriers, tu vois, ou des roches assez acérées, très raides, avec des passages, avec des chaînes. Donc voilà, j'ai toujours eu le pied, on va dire, sûr en montagne, mais je voulais quand même me réhabituer, bien vérifier qu'en termes d'équilibre, j'avais pas trop perdu. Ça, c'est tout bête, tu vois, mais si t'as pas un bon équilibre sur des terrains hyper techniques, bah, ça peut faire la différence entre une chute ou pas de chute. Et chuter à certains endroits en Himalaya à 5000 mètres, ça aurait pas été la meilleure expérience. Donc voilà, ça a vraiment été un mix de renforcement musculaire, de pratique de sortie, on va dire, pour retravailler un peu l'endurance et puis l'explosivité, mais l'explosivité dans la durée, donc avec des montées, des ascensions sur 3-4 heures. Et puis du terrain un peu accidenté pour retravailler. Retravailler l'équilibre et le pied sûr.
C'est intéressant comme parcours. Enfin, parce que bon, c'est vrai qu'on se rend compte quand dès que tu arrêtes, de toute façon, on fond musculairement. Hein. Moi, je le dis, ouais. J'ai été opéré du genou. Je n'ai même pas été immobilisé. Et pourtant, j'ai perdu 5 cm de cuisse et 4 de mollet. Donc,
ah oui.
Pour te dire, alors que j'avais. Alors, c'est un peu de ma faute aussi, parce que je suis pas allé marcher autant que j'aurais pu, etc. J'aurais pu marcher, etc. Mais on se rend pas compte à quel point on perd vite. Et surtout que moi, ma jambe n'était pas vraiment immobilisée. C'est juste que je pouvais moins m'en servir, je pouvais pas la plier. Et pourtant, j'ai perdu musculairement. Donc, pour que les gens se rendent compte quand même à quel point ça va vite, c'est que même en étant pas vraiment immobilisé, on perd. Alors, en étant immobilisé, j'imagine même pas la perte. Surtout que toi. Tu faisais 6 entraînements, enfin non, plus 6 jours d'entraînement par semaine.
Ouais.
Avant.
Ouais, carrément, ouais. Ouais, carrément. C'est hyper rapide. Et puis, voilà, au-delà de l'aspect musculaire, c'est aussi super frustrant, en fait. Parce que moi, quand je suis arrivé, du coup, dans cette salle d'urgence, puisqu'ils m'ont récupéré sur le bord de la route, puis je suis passé ambulance directement, ils appellent ça. Check-up room, emergency check-up room. En gros, j'avais genre 10 personnes autour de moi qui vérifiaient absolument tous les symptômes, etc. Et donc, entre autres, on m'a fait, on a mesuré mon rythme cardiaque. Et donc, j'étais allongé, j'étais un peu shooté aussi, hein, forcément, puisqu'il m'avait, déjà envoyé une dose de morphine. Mais je me rappelle que l'infirmière qui regardait ça, elle a bugué, hein, tu vois, elle a eu un petit moment de, parce qu'en fait j'étais à 42, je crois, tu vois, ce qui est bas, mais en fait au final qui est je pense dans la moyenne quand tu t'entraînes vraiment beaucoup sur une longue période. Et donc, elle a fini par comprendre. Tu vas me dire, vous êtes sportif. Je dis, oui, je fais pas mal de sport en ce moment. Mais voilà. Et puis, au final, 2 mois plus tard, monter 3 étages. Parce que ton ascenseur est en panne, ce qui m'est arrivé, tu vois, je rentre chez moi en béquille, première fois que je sors de l'hôpital, l'ascenseur en panne, je monte 3 étages, j'étais au bout de ma vie, quoi. Ouais. J'étais dans le même état que quand j'ai fini mon marathon, tu vois, j'étais essoufflé, j'ai eu des courbatures au dos le lendemain, enfin un truc, j'ai monté 3 étages, quoi, tu vois, avec juste mon poids, j'avais rien, j'avais pas un sac à dos avec des courses, où j'avais juste mon poids à soulever. Donc ça, c'est pas évident quand même aussi. Hein. Quand tu quand t'as une différence aussi flagrante, aussi flagrante, dans ta condition physique sur juste 2 mois, ouais, ça c'est pas évident. C'est quelque chose que j'avais déjà vécu, tu vois, quand j'avais arrêté le judo, parce que j'ai arrêté pour mes études, j'ai fait une classe prépa, et puis quelques années après, je suis parti travailler au Canada. Et mon entraîneur en France de l'époque m'avait mis en relation avec un entraîneur canadien. Il m'avait dit, bah, écoute, quand tu veux reprendre, vas-y, va t'entraîner avec le bonhomme. Il est à Montréal. Et en fait, quand je suis arrivé à Montréal, dans ce club, j'ai vite réalisé que c'était l'équipe du Canada. C'était le centre d'entraînement de l'équipe du Canada, ou en tout cas une grosse partie de l'équipe du Canada, qui préparait les JO de Londres. Tu vois? Donc, voilà. Je me suis fait exploser. J'ai vomi avant la fin de l'échauffement, pas de l'entraînement, de l'échauffement. Et c'est vrai que c'est douloureux, tu vois, quand tu as ce genre d'expérience, t'es habitué à certaines sensations. T'es habitué à être capable de faire certains mouvements, par exemple en judo ou en course, d'avoir un certain rythme. Et puis quand tu te rends compte que t'arrives pas à être à 20% de ce que tu faisais avant, c'est difficile.
Ouais, mais j'ai aucun mal à imaginer, puisque chacun à notre niveau, on le vit en plus. C'est ça le truc, c'est que moi, dans tous ceux que je reçois, avec tous ceux qu'on discute, que ce soit des... Alors bien sûr, les athlètes de haut niveau, ceux qui s'entraînent depuis des années... Et t'en as eu sur ton podcast, bien entendu, eux, ils ont pas trop vécu ce moment où ils s'arrêtent. Mais nous, qui reprenons à un moment donné, qui avons fait des pauses diverses et variées. Moi, j'ai fait 20 ans de pause, donc je sais ce sentiment que... Mais en fait, tu sais, j'en ai fait plusieurs fois l'expérience. Quand j'étais au collège, je grandissais trop vite, donc on m'avait plâtré ma jambe, parce que ma jambe, j'avais mal à... Mais c'est la fameuse maladie d'Osgood. Tu sais, avec les cartilages qui, tu grandis trop vite, t'as les cartilages qui finissent par toucher sur le, je sais plus quoi là, bref, ça fait mal. Et donc j'ai dû arrêter le foot. J'avais 2 entraînements par semaine, plus match de foot, etc. Et du jour au lendemain, j'ai dû arrêter le foot. Et puis ensuite, il me plâtre pendant 5 semaines. Et quand j'arrive en seconde, je reprends le sport. Et avant, j'étais meilleur en sport dans ma classe. Et d'un coup, je me retrouve le nul. Tu sais, le gros nul, quoi. Donc, ça motive pas pour faire du sport. Donc, déjà, la première reprise, elle est compliquée, tu sais, et tout. Mais après avoir arrêté pendant 20 ans, le phénomène, tu dis, c'est vrai, tu le ressens, tu dis, mais attends, c'est pas possible que j'arrive même pas à courir 1 kilomètre ou des choses comme ça. Quand j'étais gamin, mais je pouvais courir 15 kilomètres, je pouvais faire ça et je le vis pas. Donc, ça, on le connaît tous. Mais quand on se blesse, et c'est pour ça que je préviens toujours aux gens, attention aux blessures, etc., parce que moi je le vis comme ça, c'est que au bout de 3 mois d'arrêt, tu repars à un niveau qui est super bas. Alors toi, en plus, t'es arrêté complètement alité, donc c'est encore pire. Mais dès que tu t'arrêtes de faire du sport, de bouger, le cardio, bon, ça repart d'une manière différente, la musculation, ça repart d'une manière différente, le corps perd aussi des habitudes, etc. Et je vais même te dire un truc, c'est qu'un jour j'ai discuté avec un rugbyman professionnel, quand je faisais des interviews de joueurs de rugby, et je parle d'un club qui s'appelle l'ASM Clermont, qui a été champion de France à l'époque, et il y a un des gars qui était blessé pendant 3 mois, et le gars, quand il reprend, lui dit, ça va, ouais, il dit, c'est quoi le plus dur? Il dit, reprendre l'habitude d'avoir mal. C'est-à-dire que pendant 3 mois, il s'est installé dans un confort où il avait plus les chocs qu'il prenait dans les matchs, il se faisait plus exploser la tête parce qu'il jouait en première ligne, le mec. Enfin, aller voir les oreilles, hein. Il y avait plus ces chocs-là et tout, mais le fait de prendre les contacts, ceux qui ont regardé le rugby, là, le week-end dernier, qui regardent les France All Blacks, etc., ils voient les chocs, ils se rendent pas compte le bruit que ça fait, parce qu'à la télé, on l'entend pas, les chocs et tout. Et ben, il disait que, en 3 mois de blessure, il avait oublié ce que c'était d'avoir mal et de se réveiller tous les matins en ayant des douleurs de la veille. Tu sais, tu parlais des courbatures, tu parlais des chocs, des hématomes, des bleus, etc. Donc finalement, on s'installerait presque aussi dans une sorte de confort en disant, il y a des trucs qu'on endurait à une époque sur des douleurs. genre des courbatures d'entraînement, etc. Et ben, c'est difficile d'y retourner aussi, ces trucs-là. Donc, je pense que mentalement aussi, il faut se rentraîner à se dire, bon, ben maintenant, j'accepte d'avoir régressé, mais il faut que j'accepte de faire les efforts pour remonter aussi à un niveau qui me semble, tu peux pas dire moralement acceptable, je sais pas comment tu l'as, comment tu l'as dit.
Ouais, bah, je pense que tu as complètement raison, mais je pense que je ferai, en tout cas, si je regarde mon petit parcours, il y a vraiment eu, il y a deux types d'expériences différentes. Il y a la blessure et puis il y a l'arrêt, la pause, tu vois, pour autre. C'est-à-dire pour moi, en l'occurrence, c'était des choix de vie, d'orientation, voilà. Mais et je pense que les deux, en tout cas pour moi, ne sont pas gérés du tout de la même façon. La blessure, bon, bah, à moins que y ait une situation, enfin que voilà, il y ait des motivations spéciales. Généralement, la blessure, elle est un peu imprévue, tu vois. Donc, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai observé dans mon cas. Toutes les fois où j'ai été blessé, ça n'a pas forcément altéré ma motivation.
Ouais.
J'ai pu faire des choix de changement de parcours, comme l'Ironman, où finalement, je me suis rendu compte que ma pratique de la discipline, elle répondait pas forcément à ce qui moi me faisait vibrer. Donc pour le moment je le laisse en pause, mais ma pratique de la course, du sport en général, ça a absolument rien changé, tu vois. Et au contraire, ça m'a motivé très rapidement. Enfin, je me revois encore sur ce lit d'hôpital, le deuxième jour, je m'étais fait amener mon ordinateur et j'étais en train de regarder quel vélo je pouvais acheter pour remplacer le mien, tu vois. Tu vois, donc j'étais, en termes de motivation, ça avait absolument rien altéré. J'étais au contraire presque plus motivé à me trouver un défi pour rebondir. Et c'est quelque chose que j'ai entendu de pas mal de mes invités sur le podcast qui ont été blessés, notamment un, tu parlais de rugby, j'ai interviewé, je crois que c'était mon deuxième invité, Jonathan Logel, qui est en équipe de France de rugby à 7. Et qui me parlait en fait d'une situation où il s'est blessé, de mémoire c'était il y a plus d'un an maintenant, mais je crois que c'était avant une échéance assez importante quand même, hein, du genre Coupe du Monde. Et en fait, il expliquait qu'il n'était même pas encore sorti du terrain pour blessure. Il était déjà en train de se construire son plan pour revenir en forme, tu vois. En train de se dire, alors il faudrait que je fasse gaffe à ne pas perdre musculairement sur tel groupe musculaire. Il faudra que je fasse gaffe à l'alimentation. Enfin, il était déjà dans l'action en train de préparer la suite, tu vois. Donc ça, je pense que c'est une chose. Quant à la blessure, en tout cas moi, ce que j'ai pu observer, c'est que voilà, généralement t'as un type de réaction qui est plutôt t'es dans l'action, quoi. Tu prévois la suite. Quand c'est une pause pour choix de vie, en tout cas moi, ça a été beaucoup plus difficile. Et finalement, il a juste fallu que j'accepte que je reviendrai jamais au niveau, enfin, que j'avais pas envie de mettre en place ce qui était nécessaire pour revenir au niveau, au plus haut niveau où j'avais été en équipe de France. Mais parce que j'aspirais à autre chose, tu vois. Parce que j'avais sous les yeux aussi des copains qui, eux, avaient continué et que leur parcours ne correspondait pas forcément au parcours que moi, j'avais envie de vivre. Voilà, mais bon, c'est sûr que ces périodes de pause, quelles qu'elles soient, je pense qu'il faut s'y préparer. Et moi, c'est une chose à laquelle on ne nous avait pas du tout préparé, justement, en équipe de France, au plus haut niveau, que ce soit dans les clubs ou même avec les entraîneurs nationaux, sur le après. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de sports en fait où c'est le cas, tu vois. C'est-à-dire qu'on se concentre sur l'accompagnement du sportif pour la performance maintenant, mais en fait le après, il est hyper important. Ok, pas pour la performance sportive tout de suite, quoique peut-être
oui,
ce qui t'aide à être tu vois, un peu plus serein, sans doute
serein, oui.
Mais il est juste hyper important. Et j'ai un invité que tu as eu d'ailleurs, Steven le Yarick,
ouais,
qui me disait qu'apparemment il y a des études qui ont été faites, il faudrait entre 6 et 7 ans pour tourner la page d'un sport de haut niveau et pouvoir se concentrer sur un autre ou prendre autant de plaisir sur un autre. Donc voilà, tu vois, si c'est le cas, en tout cas moi ça a été le cas, quand je fais le bilan, ça a été à peu près ça. C'est juste super long, quoi. Donc quels outils est-ce qu'on peut avoir pour gérer cette phase qui dure 6-7 ans quand tu l'entames à 18 ou 19 ans? Tu vois.
Mais en fait c'est vrai, puis les sportifs de haut niveau, ça sculpte tellement leur vie, leur identité. Tu dis je suis quoi? Je suis cycliste, je suis coureur, je suis je sais pas quoi. Moi, tous les invités que t'as, quand tu leur demandes ce qu'ils font, tu vois, toi, je t'ai pas demandé d'ailleurs, mais j'ai attaqué directement. Mais tous les gens, quand tu leur demandes, on se met toujours une étiquette, une case, on essaye de se ranger dans des cases, des étiquettes, etc. Et il faut dire aussi au truc, hein, c'est que, soyons honnêtes, nous sommes dans une société productiviste où on est éduqué, formé pour devenir... Alors, après, le sport, le judo, c'est un peu plus individuel, mais une équipe de rugby, quand elle forme des rugbyman, enfin, elle les forme avant tout pour que les mecs, ils aient un ballon dans les mains et qu'ils soient capables de platir et d'aller gagner un bouclier de Brennus, d'aller gagner des matchs ou je sais pas quoi. À la limite, c'est vrai que ce que tu dis sur la sérénité, de dire, ça sera un petit peu plus simple si je savais ce que je vais faire après. Parce que, surtout quand ils commencent à vieillir un peu, certains, parce que le mec, il se blesse à 33 ans ou 34 ans, tu parles de, on parlait de l'OGL. Oui, il pense à ce qui se passe en sortant du terrain en se disant qu'est-ce que je vais faire derrière. Sauf que son rêve olympique, il l'aura peut-être jamais, ou en tout cas pas sur le terrain parce que il sera trop vieux. Maintenant, ça sera comme analyste vidéo, je sais pas quoi. Enfin, il peut y avoir plein de trucs, mais pas comme sportif. Donc c'est difficile à gérer et tout. Et puis moi, j'ai vu plein de sportifs qui d'un coup, c'est vrai qu'ils se disent bah attends, dans 2 ans j'ai plus de carrière. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais me faire? Est-ce que je vais faire entraîneur? Est-ce que je vais faire ça? Et tu sais, l'autre jour j'ai écouté Didier Deschamps qui disait que Didier Deschamps, il dit je ne peux pas m'imaginer loin d'un terrain. C'est-à-dire que président de la fédération de foot, peut-être un jour, mais là pour l'instant il lui faut le terrain, il faut. Alors il n'est pas entraîneur au quotidien parce qu'il est sélectionneur, donc c'est pas le même stress, sauf dans les compétitions où ils sont là tout le temps. Mais il disait non, je peux pas m'éloigner du terrain. Et tu le vois, il est fit, il est. Je pense que c'est un mec en plus qui doit courir comme un lapin encore tout le temps. Ou je pense même, tu vois, les 6-7 ans. Il y a d'ailleurs même des étapes, en fait, où certains, ils doivent se dire, non, mais je pourrais jamais quitter ce monde-là, c'est pas possible, ou puis d'autres qui tournent la page, parce que j'en ai eu, hein, des sportifs aussi, j'en ai croisé plein, des mecs qui ont arrêté le sport et qui vendent des couteaux, du PQ, ou n'importe quoi derrière. Non, mais c'est vrai, véridique, hein, des trucs, qui sont plus tout dans le domaine, ils touchent, ils font plus jamais de ces sports-là et tout. Mais c'est vrai, je comprends l'histoire. Mais quand t'étais, judoka, ton quotidien, il était tourné autour du judo, quoi.
Ah bah ouais, carrément. Et carrément. Et ça, c'est quelque chose, je pense, quand, encore une fois, hein, quand on voit des sportifs à un certain niveau, que ce soit en rugby ou bah, il y a eu les Jeux il n'y a pas longtemps, voilà, n'importe quelle discipline, je pense que c'est quelque chose, quand on n'a pas fait de sport de manière intensive, pas forcément à haut niveau, mais intensive avec des objectifs voilà, un peu peut-être au-dessus de la moyenne, on a peut-être du mal à s'en rendre compte, mais ouais, moi, et c'est pas du tout de la victimisation de dire ça, mais j'ai pas eu d'adolescence au sens classique du terme, ou en tout cas comme tous les amis que j'avais autour de moi, en dehors de ceux du judo, ont pu avoir, tu vois. Moi, c'était, je m'entraînais mardi soir, mercredi soir, jeudi soir, samedi et dimanche compétition, tu vois. S'il n'y en avait pas eu samedi aussi. Et ça voulait dire que pendant les trajets, quand mon père m'amenait au centre d'entraînement à Marseille, j'avais une espèce de lampe allume-cigare là, que tu branchais sur allume-cigare, et puis je révisais mes cours sur le siège, le siège passager, tu vois. À 21h30, après m'être fait éclater pendant 2 heures sur le tatami. Et le lendemain, je retournais en cours, j'avais un chou qui sortait, donc tu parlais des oreilles de rugbyman. En judo, il y a un peu pareil, enfin, il y a la même chose. Donc, je me rappelle, j'avais passé une semaine. Il n'y a pas d'accessoire pour empêcher ça, donc il faut un peu bricoler. Un débricolage qu'on avait trouvé en tout cas en judo, c'est tu prends une balle de tennis, tu la coupes en deux. Tu te mets la moitié sur l'oreille et tu strappes autour de ta tête. Donc, tu as l'air d'un guignol, mais tu as l'oreille protégée. Et donc, voilà, tu vois, c'est te retrouver aussi, aller au lycée à un âge où en fait, tout le monde est en train d'un peu construire son image et son identité et tu vois, sa place dans la société. Et puis, toi, là, tu arrives, tu as les doigts éclatés, tu as le cou complètement râpé par le kimono, tu as ta demi-balle de tennis strappée sur la tête. Voilà, tu vois. Et puis, tu rates en seconde. Je me rappelle la réflexion d'une prof. Chaque fois que je lui amenais, je lui amenais à chaque fois des convocations parce que je partais en Pologne, je partais en Allemagne, donc j'avais les convocations de la fédération de judo. Je partais au Japon, etc. Et je me rappelle peut-être moitié d'année, je lui amène une énième convocation et en fait, elle pète un câble, tu vois. Et elle m'affiche devant toute la classe en fin de cours en me disant « mais c'est pas possible, mais comment est-ce qu'on va faire avec vous pour finir l'année ?» Et j'ai raté 2 mois et demi de cours, tu vois. Et ça, ça c'est pareil. Je pense que c'est des phases dans la vie d'à peu près n'importe quel sportif qu'on ne voit pas et dont on n'a pas conscience. Mais il y a plein de sportifs, tu parlais d'identité. C'est hyper compliqué en fait. Quand tu n'as fait que ça, tu te définis comment? Tu te définis, oui, comme tu l'as dit, comme judoka ou rugbyman. Mais en fait, une fois que tu n'as plus ça, si tu n'as pas préparé la suite, je pense que c'est hyper compliqué, quoi. Parce que moi, j'ai arrêté, mais j'étais jeune, tu vois.
Ouais.
Et c'est pas du tout à un niveau comme aujourd'hui des Alexandre Idir ou des Teddy Riner, pour ceux qui suivent un peu le judo, sont. Tu vois, évidemment, absolument rien à voir, tu vois. J'ai jamais fait plus qu'un championnat de France. Mais
attends, tu minimises quand même le truc, parce que tu te dis, en plus en judo, il y a très peu de place. En plus en judo, je veux dire que. Parce que c'est le truc, je t'ai pas demandé ton âge en fait.
J'ai 31 ans.
Alors, tu vois, parce que c'est ce qui m'intéresse, tu parles de Teddy Riner et tout. Et enfin, ta catégorie, t'étais pas dans celle d'un Teddy Riner qui est lui en tout, comment on appelle ça, poids lourd, toute catégorie. Ouais. Mais en plus, j'imagine, tu vois, tu m'aurais dit que t'avais été poids lourd, toute catégorie. Et tu te dis, t'as 15 ans et t'as un mec comme Teddy Riner en face. Parce que vous avez, à un an d'écart, vous avez le même âge.
Ouais.
Je m'imagine, t'as 17-18 ans, t'es dans le même truc, t'as le même âge que lui, et t'as ce mec-là en face, tu te dis, je serai jamais champion olympique ou quoi que ce soit. Enfin, c'est tous les mecs qui étaient dans sa catégorie, il les a tous dégoûtés, parce qu'il a dégoûté tout le monde au monde, mais en France, les gars à côté, ils étaient quoi ils a pas le regarder en disant, putain, mais je l'aurais jamais... Parce qu'il n'y a qu'une place au JO en plus dans la catégorie.
Ouais, non, c'est sûr, hein. Si t'as je sais pas si c'est de la mal, ouais. Ah, spontanément, j'aurais dit de la malchance, ouais. Franchement. Mais, tu vois, parce que tu peux toujours dire, ouais, mais du coup, c'est une incitation, tu vois, peut-être à te poser des questions sur ta pratique, est-ce que tu switches sur un autre sport? Bon, moi, spontanément, j'aurais dit plutôt de la malchance. Mais ouais, c'est clair que, on s'entraînait ensemble, hein, donc même s'il y a un an d'écart, on était, tu vois, j'ai fait des entraînements quand on était beaucoup plus jeunes, 14, 15 ans, on avait fait des déplacements en Allemagne, etc. Et ouais, enfin, c'était physiquement déjà, s'il y avait une différence, alors que moi j'étais dans la catégorie juste en dessous, hein. Ouais. Il était en cadet en l'occurrence, t'as pas de catégorie au-dessus de plus de 90 kilos. Donc c'est moins de 90, plus de 90. En tout cas, c'était le cas à l'époque. Je crois pas que ça ait changé. Donc lui était en plus de 90, moi en moins de 90. Et ouais, donc juste une catégorie d'écart. Mais il y avait un gouffre mais abyssal entre nous, tu vois. Physiquement, c'était il jouait avec moi, quoi, sur le tatami. Alors que je faisais 90 kilos, tu vois, et 90 kilos affûtés, voilà, plutôt que de muscles. Donc tu vois, et plutôt dynamique et voilà, enfin judoka depuis des années, quoi. Donc ouais, c'est clair que tu tombes sur il y en a un, hein, qui s'est arrivé, hein, des jeunes qui ont commencé le haut niveau et qui sont retrouvés finalement avec Teddy, ouais. Ça n'a pas dû être évident à gérer, ça aussi.
Ouais, parce que rappelons quand même qu'il a 32 ans et qu'il était champion du monde à 18 ans, qu'il avait tous les titres déjà à 18 ans, donc et qu'il a pas perdu de combat pendant pratiquement plus de 10 ans, donc forcément que derrière, il y a qu'une place, hein, et on le redit, hein, c'est que aux Jeux Olympiques, donc par catégorie, et t'as qu'une place par pays, hein, mis à part peut-être une exception pour certains pays, mais donc là, tu te retrouves face à ce monstre-là, en disant, ouais, comment je peux faire? Et t'as même pas le choix en plus, c'est ça le truc, c'est que comme t'as une question physique en plus, tu peux même pas dire, ouais, mais attends, je vais perdre du poids, rentrer dans la catégorie d'en dessous, ça veut dire que tu te mettrais au régime, à te priver, et à un bout d'un moment, tu peux pas le faire. J'ai fait un épisode avec un boxeur, où on parlait de ces trucs-là, où les boxeurs, ils ont tendance avec le temps à monter en catégorie, parce qu'ils peuvent pas tenir leur poids, sinon ils sont cuits, ils sont crevés, etc. On parlait de Pacquiao, par exemple, il m'avait dit qu'il avait peut-être pris 5 catégories d'écart dans sa carrière, à force de grimper. Alors pour moi, il me paraît tout léger encore, tu sais. Et il me dit, non, mais en fait, il grimpe d'un truc et tout. Et bon, tu vois, moi je me dis, enfin, tu tombes face à Teddy Riner, t'as une carrière et tout, tu te dis, mais comment je vais faire ma carrière quand t'es compétiteur et tout, pour arriver à le bouger. Et tu te dis, ça doit être encore plus impressionnant. Mais bon, tu vois, c'était une parenthèse, parce que c'est un truc quand même qui te travaille, tu sais, tu te dis, dans les, je sais pas si t'es sportif, que t'as dans, ils disent s'il y a de la chance ou pas, tu vois, des trucs comme ça, mais, enfin, tu peux pas rien y faire à ça, en fait. C'est-à-dire que, toi, quand tu décides de partir au Népal, tu peux dire, je vais marcher, et puis bon, il peut se passer un mauvais temps, ou je sais pas quoi, mais, tu contrôles ce que tu vas marcher, etc. Si tu peux faire le parcours, tu peux faire le parcours. quand t'es en compétition, tu contrôles pas le fait que t'as un mec, un ovni qui arrive, un monstre, et que tu c'est pourras clair. Peut-être rien y faire, je veux dire. C'est comme ceux qui se disent, pour réussir ma course, faut que je la gagne. Et à un moment donné, sauf si tu as perdu Usain Bolt et t'es sur 100 mètres, il n'y a pas grand monde qui est capable de dire si je ne réussirai ma course que si j'ai gagne.
Ouais, c'est clair. Et ouais, bah, complètement. Et tu vois, je pense que ça joue dans les. Ça va dans les deux sens. Tu peux aussi avoir de la chance. Moi, j'ai déjà vu des copains, tu vois, qui s'est arrivé, qui n'étaient pas titulaires, par exemple, qui étaient remplaçants sur des gros événements. Et puis, le matin de la compétition, le titulaire se blesse à l'échauffement, tu vois.
Ouais.
Et là, bon, bah, finalement, boum, il y va. Voilà.
Et boum, enfin, médaille.
Ouais, c'est de la chance pour lui, de la malchance pour le titulaire, mais tu vois. Mais ouais, c'est clair. Et puis, bah, je pense que ça, c'est peut-être des réflexions. En tout cas, moi, j'étais trop jeune à l'époque, je pense, pour avoir ce genre de réflexion. Tu vois, qu'est-ce que je contrôle vraiment? Sur quoi est-ce que je lâche prise? Mais typiquement, l'accident, enfin, je pense que, bon, en l'occurrence, c'était un accident, mais des épreuves un peu difficiles qu'on traverse dans le sport, je pense que ça aide justement à peut-être à considérer ce genre de, enfin, à considérer les choses un peu différemment et à se concentrer sur ce sur quoi on a vraiment de l'emprise en fait. Tu vois, le fait qu'une voiture te frappe dedans, bon bah tu peux pas vraiment contrôler grand chose en fait. Tu peux peut-être l'influencer, tu vois, te mettre des lumières un peu partout, un casque gyrophare pour qu'on te voit et voilà, c'est tout quoi. Mais voilà, en tout cas moi cette approche ça m'a aidé à tourner la page un peu plus vite, que ce soit du haut niveau ou après notamment cet accident.
Mais c'est un sujet qu'on avait abordé avec Lilian Doza sur le stoïcisme et le sport. Et parce que tu as eu Lilian et j'écoutais l'épisode juste avant tout à l'heure. Et le jour où Lilian il me dit qu'il a traversé l'Atlantique à la rame avec Épictète, le bouquin, dans le bateau, qu'il en lisait une page tous les jours. J'ai dit, attends, mais tu m'as pas raconté cette histoire-là et tout, il faut que tu me parles de ça. Mais ça montre aussi que finalement, mentalement, on parlait de résilience, on parlait de mental, on peut parler de tout ce qu'on veut. Il y a des philosophies aussi de voir, tu disais, on peut voir la blessure, on peut voir l'arrêt, on peut voir plein de choses, parce que nous, on parle d'arrêt, on est des hommes, mais par exemple, les femmes qui arrêtent pour faire un enfant, c'est encore une forme d'arrêt différent. Tu peux dire oui, je peux reprendre après, mais il y a une forme d'inconnu, tu sais pas comment tu peux réagir, tu sais pas ce qui va se passer, tu sais pas plein de trucs. On parlait de la blessure d'un rugbyman, le rugbyman il sait pas si finalement il reviendra à son niveau, ce qui peut se passer. Il y a plein de trucs qu'il contrôle pas en fait, il est dans un non-contrôle total. Et on parlait tout à l'heure de Steven Ullyarik. Bon, Steven Ullyarik dans ses aventures, il y a des trucs non plus qu'il contrôle pas. Quoi qu'on en dise, il peut essayer de contrôler tout ce qu'il veut. Quand il raconte l'histoire que t'as des lions, t'as ça, ou qu'il fait moins 40 au Lake Baïkal à tel moment, t'es juste à te dire, bon, il faut que ça passe, j'attends que ça passe, quoi.
C'est clair. Et je pense que ce serait peut-être un piège, tu vois, d'essayer de tout contrôler. Parce que, à part gérer de la frustration, je vois pas bien, tu vois, quelle serait l'issue. Donc, mais ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Tu vois, c'est, t'as toujours ce facteur inconnu, ce facteur peut-être chance, hasard, qu'il faut prendre en compte. Et puis, c'est marrant que tu parles de Lilian parce que, moi, j'avais jamais lu Épictète non plus. Enfin, non plus. Je sais pas si toi, tu l'avais lu avant d'échanger avec lui.
Mais oui. Moi, c'est un de mes livres de chevet, tu sais. Mais je retiens que les premières pages. J'arrive pas à retenir les autres pages, etc. Mais ça fait partie des livres, tu sais, que j'ai toujours. Et puis à un moment, je les ressors et puis je me dis bon, faudrait que j'aille un petit peu plus loin encore pour creuser. Vraiment, je cherche un moyen d'explorer, tu sais, mais vraiment en profondeur, comme le fait Lilian en fait, me dire mais qu'est-ce qui ferait que je pourrais explorer chaque passage, tu sais, pour vraiment en tirer un peu la quintessence, tu vois, du truc.
L'essence, ouais.
Ouais, parce que je crois que Lilian en fait, à force de pousser l'histoire, il arrive à en comprendre des choses différemment, tu sais. Donc voilà, donc ça fait partie. Mais c'est vrai que je sais qu'il y a des gens qui ont acheté le livre après l'avoir écouté lire. Donc ça fait aussi son chemin parce que moi je le dis aussi, je crois que ça fait partie aussi de la manière dont on peut aborder les choses. Bon, et, donc ouais. Tu disais Épictète alors ?
Non, bah justement par rapport à cette notion de l'instant présent et du lâcher prise. Moi j'avais trouvé la conversation avec Lilian hyper intéressante pour ça, et puis il y a pas mal d'autres invités, et j'imagine que toi aussi, tu vois, qui décrivaient un peu cette approche sans forcément citer Épictète, mais le fait d'être dans l'instant et de se concentrer au final sur ce qui t'arrive à l'instant T, ce qui veut pas dire que t'as pas un plan pour la suite ou que t'as pas des objectifs pour lesquels tu te prépares, mais en tout cas voilà, d'accueillir les choses au fur et à mesure qu'elles se présentent, je pense que pour moi ça a fait beaucoup de différence. C'est aussi quelque chose que l'accident m'a un peu permis de faire. Parce que quand tu es 2 mois alité, que tu tombes dans les pommes quand tu éternues tellement tu as mal au bassin, bah, en fait, il n'y a pas grand chose que tu peux faire. Tu vois. Donc, bah, à part, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu pètes un câble tous les jours où tu es réveillé pendant 2 mois, ou est-ce que tu utilises ton temps autrement? Et est-ce que bah, finalement, tu accueilles chaque journée comme une belle occasion d'essayer de créer une expérience un peu différente? Et finalement, c'est plus ça que j'ai fini par apprendre à faire, parce que j'en avais, c'était ce qui me semblait le plus juste. Et je pense que c'est quelque chose, surtout quand tu as beaucoup de projets, et toi, ça doit aussi être le cas, tu vois, avec le podcast, tu cours beaucoup, tu m'as l'air d'être assez actif avec tes différents projets. Moi, en tout cas, c'est le cas aussi. Et quand tu mènes plusieurs expériences de front, je trouve que cette approche de l'instant présent, elle aide vachement. Tu vois, parce que ça te permet d'éviter de te faire complètement dépasser, et puis surtout, ça te permet de kiffer ce qui est en train de t'arriver là tout de suite. Tu vois, là, je suis trop content, je suis concentré sur la conversation qu'on a, même si j'ai 2 dégâts des eaux en parallèle, que je suis en train de monter ma boîte, qu'il faut que j'aille m'entraîner demain parce que j'ai une course le week-end prochain. Tu vois, mais je prends les choses au fur et à mesure. Et au final, c'est en tout cas ce qui, moi, me permet vraiment de continuer à faire flamber, à faire brûler la flamme, en fait.
Mais je suis en train de lire un livre dans ma grande pile de livres que je lis. Pour ceux qui savent pas, mais je le raconte dans un autre podcast, je lis environ 6 à 8 livres en même temps, en parallèle, toujours toujours des trucs comme ça, je vais piocher, etc. Et je lis un livre sur le flow en running qui s'appelle Running Flow, voilà, tout simplement, ça s'appelle comme ça. Et je ne dirai pas le nom de l'auteur, qui est le grand spécialiste du flow, donc Mihály Ilescu, je sais pas comment, qui est mort il y a un mois. C'était sa grande quête, en fait, de savoir ce qu'était le flow. C'est le moment où tu es totalement absorbé dans ce que tu fais. Et c'est intéressant parce que il raconte un truc. Il disait, on ne peut pas déclencher l'état de flow volontairement, en fait. Mais par moment, on va être concentré, totalement absorbé par ce qu'on fait, parce qu'on a mis tous les ingrédients qui permettent de l'atteindre. Et c'est, je pense que c'est ce que tu retrouves dans les invités de ton podcast. C'est-à-dire que, on peut revenir sur Lilian, sur sa préparation, sur l'état psychologique dans lequel il se place, etc. pour le faire, ce que j'avais eu. On peut parler de Steven. Steven, il est habité par ce qu'il fait, quoi. Enfin, par son truc, etc. Et je pense que tous les invités, ils ont une préparation. Surtout, j'en vois, ils ont fait du bateau. T'en as qui partent dans le grand froid. T'en as quand, dans tes invités, t'en as eu plein. Je veux dire que l'aventure marathon, c'est une aventure. Mais l'aventure, quand tu vas traverser, je sais pas quel désert en froid ou je sais pas quoi, c'est une grande aventure. Et ton Népal était une grande aventure aussi et tout. T'as plein d'éléments de préparation qu'il faut mettre en place. Et à un moment donné, bah, je pense qu'ils doivent te le dire aussi, tes invités. Il y a un alignement qui fait que, à ce moment-là, ça semble, alors je dis pas facile, mais plutôt logique. Enfin, t'as une espèce d'alignement des choses, quoi, que dans tout ce que tu fais, quoi.
Clairement, ouais. Cette notion de fluidité. Ouais, complètement. Et tu vois, si c'est intéressant, parce que j'avais peut-être tendance à penser qu'on pouvait c'est pas évident de comprendre cette notion de flow quand tu l'as jamais vécu, je pense. Mais moi, j'ai eu la chance, ça m'est arrivé peut-être, je dirais, 2 fois dans le sport, une fois en judo, une fois en trek. Mais j'étais allé justement poser cette question à certains de mes invités, pour lesquels, tu vois, je pensais que forcément, vu ce qu'ils faisaient, ça avait dû leur arriver, tu vois, notamment un champion olympique. J'ai eu Pierre Wain, qui a été champion olympique à Rio en aviron, et on avait discuté du coup de la journée où il est devenu champion olympique. Et en fait, c'était intéressant, parce que quand il a raconté du réveil jusqu'à ce qu'il retourne dans son lit cette journée, c'était tout sauf un moment de flow, tu vois. C'était la course elle-même, c'était l'horreur absolue. Une fois qu'il a passé la ligne d'arrivée, il pouvait plus se lever de son bateau, acide lactique de partout dans le corps. Donc c'est intéressant, tu vois, parce que oui, effectivement, on peut certainement pas le déclencher, mais peut-être qu'on peut multiplier les, disons qu'on peut augmenter la probabilité qu'il se déclenche par la préparation.
C'est exactement ce qu'il disait, en fait, le scientifique, quand il a étudié ça. En fait, il dit, par l'entraînement, par la répétition du geste, par le fait que tu penses pas à ton geste. C'est-à-dire que toi, en judo, tu dois le savoir, t'as des gestes où, à force de les faire, ça devenait tellement automatique à répéter que le moment où tu le passes et le moment où t'as atteint ton flow en judo, c'est juste que le mouvement, tu l'as peut-être fait 1000 fois ou 2000 fois, et que à ce moment-là, instinctivement, tu sais pas pourquoi, tu dois le placer là et que le mec, il se retrouve les quatre fers en l'air et toi, tu te dis, hé, je t'ai eu.
Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, bah, c'est vrai que surtout dans les sports où t'as de la... enfin, il y a de la technicité dans tous les sports, mais les sports où la technicité, c'est ton corps, ouais, je suis 100% d'accord, tu vois. Et en, en judo, il me semble que c'était 10 000 le seuil, il y a une espèce de, d'adage japonais, enfin, en tout cas, c'est ce qu'un de nos entraîneurs nous avait dit, où c'est 10 000, tu vois, à moins d'avoir fait 10 000 fois le même mouvement, tu n'as pas vraiment encore compris, en fait, comment le, ce mouvement est fait, tu vois. Donc, voilà.
Fais et tu as la théorie des 10 000 heures de pratique aussi, tu sais, qui a été... Malcolm Gladwell a écrit un livre sur les 10 000 heures de pratique et qui était un constat en fait en plus il y a un truc foireux dans, ce, dans son livre il, comme quoi le marketing est très fort où il vend un truc en fait il avait fait l'analyse disant que, mais c'est intéressant par rapport au sport parce que justement il disait que tous les grands sportifs mais tous les grands artistes aussi ont eu des années de pratique pour arriver à faire ce qu'ils sont en train de faire et ce que, pourquoi tu les admires maintenant. On pourrait reprendre un judoka pourrait considérer qu'il faut qu'il s'entraîne 10 000 heures pour devenir champion olympique. Voilà, à peu près, c'était son truc. Et en fait, il n'y a aucune notion scientifique dans ce qu'il a mis dans son livre. C'est pas scientifique, son histoire. C'est en fait, il prend un exemple, il dit, eh ben, pour que Mozart devienne Mozart et qu'on pose tel truc, il lui a fallu des années de piano pour arriver à faire ça, ça et ça et ça. Pour que tel musicien fasse ça, il lui a fallu des années. Et environ, si je faisais 3-4 heures de musique par an, par jour, toute l'année, pendant X années, ça fait 10 000 heures. Tu vois? Et on arrive sur ce truc-là.
D'accord.
Et en fait, il le dit pas pour dire, vous devez faire 10 000 heures et vous allez réussir, parce qu'il y a un golfeur qui a essayé et qui a jamais été au très haut niveau, même s'il a eu un très très bon classement, le mec, sur les parcours. Il arrive au zéro, tu vois, il est pas très loin, mais il arrive pas, c'est pas Tiger Woods, tu vois, et, parce qu'il est encore au-dessus peut-être pour arriver. Par contre, il dit un truc, et dans le sport, qui est vraiment important, il dit, par contre, pendant le parcours de la zéro, de leur zéro à leur 10 000, c'est-à-dire l'heure où tu vas monter sur ton podium olympique, peut-être, si t'as pas les soutiens, si t'as pas des sponsors, si t'as pas ta famille au départ, tu parlais de tes parents qui venaient te chercher dans la voiture, tu regardais des trucs, si t'as pas des gens qui t'aident à financer tes voyages, si t'as pas l'encadrement scolaire qui dit, bah oui, tu peux partir faire ton stage en Allemagne, en je sais pas où, en je sais pas où, puis on arrivera à faire en sorte que tu puisses suivre tes cours au lycée. Si t'as pas tout cet environnement-là, bah en fait, tu peux pas y arriver. C'est ce qu'il voulait démontrer, en fait. C'est de dire que il te faut soit de la famille, soit des mécènes. À une époque, les artistes avaient des mécènes, soit des soutiens, des sponsors, des partenaires. Et tout un tas de trucs que tous tes invités, je pense, c'est aussi leur grand truc d'aller les chercher, de se dire mais comment je peux financer ça? Comment je peux faire ça? Comment est-ce que je peux préparer cette aventure-là? On en parlait avec Stéphane Yarick, mais on peut en parler, je pense, avec plein de gens, qui est de se dire aussi, il faut que quand je parte à l'aventure, ces histoires d'heures de financement et tout, tout ça, ça soit tout réglé, que j'ai peur à m'en occuper, que je me dis, et j'ai pas de soucis là-dessus. Et c'est là où c'est intéressant aussi, parce qu'on parlait tout à l'heure, toi, de ta carrière en judo, tu te dis, pour arriver à faire carrière, si t'as voulu être champion olympique, bah, il fallait aussi trouver comment vivre, comment financer ça, comment faire ça, etc. Et c'est tout le débat du sport français, d'ailleurs, en ce moment, par rapport au sport américain, par rapport à plein d'autres sports. C'est de dire, mais comment tu fais quand tu vois Blanquer, il dit oui, mais les lycées français sont capables de former des sportifs de très haut niveau. Quand tu vois l'état des lycées en France, des équipements sportifs, tu dis peut-être pas, il y a peut-être un truc. Il y a peut-être un truc. Si par exemple tu parles de triathlètes, moi j'ai le nombre de triathlètes, de jeunes triathlètes qui partent aux États-Unis dans les universités américaines, c'est dingue. C'est juste dingue parce que là-haut, ils peuvent, t'as un entraînement, etc. Et c'est intéressant cette histoire de répétition et tout. Et je pense que ça joue aussi, tu vois, dans le fait de te dire. Il faut, j'ai pas à m'occuper de la logistique, je sais que tout roule, je sais qu'à terre, tout va bien, tu vois. On reprend Lilian, quand il est au milieu de l'Atlantique, il doit pas avoir à s'occuper de savoir si ses filles vont bien, si sa femme peut s'en occuper ou pas, se poser la question de savoir, je passe un coup de fil ou quoi que ce soit, tu vois. C'est tout un ensemble, et je pense que ça, tu l'as aussi dans le podcast, des témoignages de ce type-là.
Ah bah, à fond, carrément, c'est même peut-être un des points moi qui me marque le plus, tu vois, et j'en parle avec ma femme de temps en temps pour rigoler. Je lui dis si jamais je gagne au loto ou que le podcast devient un succès interplanétaire et que je me retrouve avec plein d'argent, bah je pense qu'un des rêves, un des trucs qui me ferait vraiment kiffer, c'est de créer une sorte de fonds ou un programme, tu vois, pour investir en fait sur des sportifs, des aventurières, des gens en fait qui font des choses qui moi me parlent beaucoup, que je trouve incroyables. Et t'as été fouteux, donc désolé, et puis désolé pour tous les fouteux qui m'écoutent, mais que je trouve peut-être plus incroyable, tu vois, que de taper dans un ballon, mais qui pour autant arrivent pas à trouver le moindre centime pour leur projet. Et même à des niveaux, tu vois, j'ai une de mes invités, enfin plusieurs de mes invités, surtout d'ailleurs surtout les femmes, et c'est ça qui je trouve encore, enfin que je trouve triste. Alexia Fancelli, par exemple, qui prépare les JO, qui j'ai eu. J'ai eu récemment Julia Viera qui est en ce moment en train de faire la Transat Jacques Vabre, qui a galéré jusqu'à l'avant-veille du départ pour boucler son budget, sans savoir vraiment si elle pourrait partir ou pas. Et il y en a plein, en fait, tu vois, des exemples comme ça. Armel qui fait du kite, qui va kiter des lacs glaciaires à 5000 mètres d'altitude avec son compagnon Martin Thomas qui était au JO en... canoë. Chaque fois je me trompe, canoë ou kayak, canoë. Ils en parlent tous, tu vois. C'est un énorme frein, en fait. Et au-delà d'être un frein, c'est aussi, comme tu dis, en fait, c'est de la matière grise que tu ne mobilises pas pour ton projet. Enfin, ouais. Que tu ne mobilises pas pour l'essence, peut-être, de ton projet. C'est des galères à gérer, c'est de l'inconnu, de l'imprévu. Ça prend énormément de temps. Moi, j'ai pas fait des choses du tout au niveau de mes invités, mais la première fois que j'ai fait le GR20 en 7 jours, bah, j'avais décidé d'aller me chercher des sponsors, tu vois. Ouais. Donc, on avait eu Oka. Oka venait d'être créé. Et en fait, j'avais discuté avec un des deux cofondateurs et on avait eu des paires de Oka. Et ça m'avait pris vachement de temps, tu vois, juste de monter un dossier, de réfléchir à comment j'allais présenter la chose, comment est-ce qu'on pourrait communiquer, faire une vidéo après. Donc, j'ose même pas imaginer sur des défis du type Vincent Colliard qui traverse le Svalbard en plein hiver pour la première fois, tu vois, où c'est 60 jours d'expédition, des contraintes techniques de malades mentaux, pas de soleil parce qu'il fait nuit, parce qu'il le fait en février. Donc, il fait nuit H24. Donc, comment tu fais pour gérer les batteries? Il a dû se débrouiller pour trouver des batteries militaires, enfin, des trucs, tu vois, d'un point de vue logistique contrainte, mais qui sont hyper complexes à gérer. Mm. Donc, c'est sûr que si tu as quelqu'un ou un réseau de support qui t'aide à les faire sauter ou en tout cas qui les gère pour toi, bah ouais, rien à voir quoi. Tu t'envoles.
Ouais, et tu sais, sur les footeux, je te dirais rien parce que je pense que les footeux, c'est quand même le métier qui est honnêtement, enfin, soyons honnêtes, hein, par rapport aux sommes gagnées par certains, par rapport aux... Alors, attention, je dis pas qu'ils ont rien foutu de leur vie, hein, parce que faut pas négliger hein, les meilleurs sportifs, les meilleurs footeux actuellement. C'est des gens qui ont une hygiène de vie et tout. On en a parlé il y a pas très longtemps. Enfin, j'ai un épisode qui est pas diffusé, mais qui sera diffusé sur Sport et Nutrition avec un chef cuisinier de l'AS Monaco. Et on en parlait. On disait, un mec qui mange mal et un jeune qui mange bien, un jeune qui mange mal, c'est aussi ce qui fait la différence entre celui qui va aller en équipe de France et celui qui va se blesser. Et s'il va être blessé 3 mois de l'année, ça va pas le passer, etc. Et donc ça, c'est des vrais trucs, des vraies problématiques, des vraies contraintes, etc. Mais franchement, honnêtement, t'as des footballeurs par rapport à ce qu'ils gagnent, par rapport à ce qu'ils font, par rapport à la dureté du sport, par rapport au fait, c'est le monde économique qui est comme ça. C'est-à-dire que il y a pas beaucoup de sports qui sont capables de drainer autant d'argent qu'une équipe de foot. Et même dans l'équipe de foot, hein, attention, c'est qu'il y a différents niveaux. Moi, clairement, notre équipe de foot, elle a un budget qui est le plus petit budget de Ligue 1. Et en le disant en plaisantant, je disais, le budget de toutes les clubs, tout le club complet, c'est moins que le salaire d'un joueur du PSG. Tu vois, il y a un moment donné, quand ils sont sur le même terrain, tu te dis, attends, t'as le mec en bas, il gagne 40 millions et payé en crypto-monnaie, et nous, t'as les mecs, le club au global n'a pas 20 millions de budget, tu vois, je vais te dire. Mais la magie, c'est qu'ils sont l'un en face de l'autre. Sur certains matchs, on va pas voir combien de temps ça va tenir, etc. Mais la magie, c'est que c'est possible. Ça fait partie des choses qui sont possibles. Et je crois que c'est un truc, c'est ce qui est intéressant dans ton podcast aussi, c'est que t'as plein d'invités qui montrent qu'il y a des choses qui sont possibles, alors que tu penses que ce n'est pas possible, mais qui montrent qu'en fait, c'est possible. Et que c'est pas forcément facile, etc. Mais que c'est possible.
Ouais, carrément. Et je suis content que tu le dises parce que c'était un des objectifs du podcast. Donc sur les frappés, j'ai des Il n'y a pas vraiment de thématique, il n'y a pas d'univers ciblé. Tu vois, je me suis beaucoup inspiré de ce qu'a fait Arnaud Manzanini, peut-être que tu connais, qui a créé la Race Across France et qui a un podcast qui s'appelle Ultra Talk. En fait, j'étais son manager quand il travaillait chez Apple et que je travaillais encore chez Apple. Donc, j'avais vu le début d'Ultra Talk et je m'en étais vachement inspiré. Mais il a plutôt une ligne cyclisme, tu vois. Moi, ça, mon parti, ça a été plutôt de dire je prends une ligne, en fait... La thématique, c'est plus le développement personnel.
Ouais.
Donc, les trois sujets phares, on va dire que c'est résilience, dépassement de soi, détermination. Et donc, c'était super important pour moi d'avoir des invités, certains qui ont fait des trucs complètement fous, qui sont champions olympiques, athlètes olympiques, aventurières professionnelles, entrepreneurs à succès. Mais j'ai aussi des gens qui ont fait des trucs complètement fous, mais dont c'est pas le job, qui ont des vies, entre guillemets, normales comme toi et moi. Par contre, avec pas de moyens, pas de sponsors, mais qui ont réussi à se créer les conditions pour vivre leur rêve. Et j'ai eu une invitée récemment, tu vois, qui s'appelle Émilie, qui a traversé l'Afrique à vélo, en solo, en 2 ans. Donc, elle l'a fait en 2 fois, mais elle s'est débrouillée, elle l'a fait sur 2 fois, plusieurs mois. Et voilà, et elle a fait son truc, tu vois, avec un vélo, pas un vélo high-tech, sponsorisé ou je sais pas quoi, sans utilisation massive des réseaux, mais elle a fait son aventure, tu vois. Et Lilian, puisqu'on parlait de Lilian, je trouve que c'est ça qui est aussi hyper inspirant, c'est qu'il a, il a su se créer des expériences extraordinaires, même s'il n'a pas de sponsor depuis des années, ou voilà. Ce qui ne veut pas dire que c'est nécessairement plus facile avec des sponsors, parce que tu as aussi, du coup, tu deviens, de ce que j'ai pu un tout petit peu toucher du doigt à travers mes projets, c'est que tu deviens un peu, tu es un peu contraint aussi. À partir du moment où tu as une relation avec un sponsor, tu as aussi des engagements après à respecter. Et voilà, ça c'est quand même un point à pas oublier. C'est pas juste, tiens, prends un chèque et puis va t'amuser, en fait. Tu as aussi des engagements à honorer. Mais ouais, complètement, il y a plein de mes invités, en tout cas moi c'est pour ça que je me régale toutes les semaines, qui font des choses extraordinaires en ayant des vies de ce qu'ils diraient eux, hein, ordinaires.
Ouais, mais c'est souvent ce qu'on trouve dans le sport en plus, dans certains, c'est vrai que on a souvent ces témoignages là et c'est vrai que, bon, on le dira, hein, tu diras où écouter ton podcast, mais je pense que ça fait partie des grandes lignes, etc. Bon, je peux pas te quitter quand même sans te demander, parce qu'on a parlé finalement d'Ironman, on a parlé de trek, on a parlé de choses. Tu fais quoi comme sport maintenant, en ce moment?
Alors, en ce moment, je suis dans une période où je reviens pas mal sur la course, course à pied, donc trail. Je suis installé depuis que j'ai quitté la Suisse, donc depuis un mois on va dire, dans la magnifique région d'Aix-en-Provence, donc j'ai la Sainte-Victoire à 10 minutes d'ici, donc je me régale à redécouvrir un peu les sentiers de ma région, et donc ça on va dire que ouais, c'est l'essentiel. Et puis là je suis dans une phase aussi kayak, donc j'ai un projet pour faire le tour de Corse en autonomie à l'été 2023 avec un de mes invités d'ailleurs, qui est venu, voilà, qui s'est greffé sur l'expédition et que je suis très content d'accueillir. Et donc, voilà, kayak, il y a quand même quelques notions techniques pour la sécurité que je voulais maîtriser, comme l'esquimotage, etc. Donc, le fait de se retourner sans sortir de son kayak quand t'as chaviré. Voilà, donc, c'est ce qui m'occupe en ce moment.
Ouais.
En termes de sport.
C'est des chouettes projets. c'est des chouettes projets. Puis je sais que tu as d'autres. C'est grand changement. Tu disais que tu arrives de Suisse. Tu parlais de création d'entreprise. J'ai cru comprendre aussi.
Ouais. Là, il y a un peu tout ce qui pouvait être changé. Je suis en train de le changer, là, presque. Donc, ouais, j'ai quitté Apple après 7 ans dans l'entreprise. Je suis en train de créer une entreprise avec un associé. Donc on est à fond là-dedans, on a quitté la Suisse, on est revenu dans le sud, donc ça faisait 7 ans qu'on n'était plus dans la région, c'était notre deuxième expatriation, et on attend un enfant, donc voilà, il y a plein de beaux changements qui se profilent ou qui sont en train de démarrer très fort là.
Eh bien, écoute, je te souhaite une belle réussite dans tes projets. C'était vraiment sympa. Merci. De discuter avec toi, et j'encourage vraiment à aller écouter ton podcast. Alors, tu vas nous dire tout simplement où est-ce qu'on écoute ton podcast?
Alors, très simple, n'importe quelle plateforme. Le podcast s'appelle Les Frappés, 2PE.E.S, Les Frappés. Il y a un site www.lesfrappés.com. Et sur ce site, vous avez tous les épisodes. Et pour chaque épisode, il y a un lien vers les différentes plateformes, que ce soit Apple Podcasts, Spotify, Deezer. Il est partout.
Voilà. Et puis, il y a un compte Instagram aussi, je le dis, parce que comme ça, on y retrouve des citations. On voit certains de tes invités avec des photos, etc. Donc, il y a le site, compte Instagram, qui est Les Frappés, je crois, hein, si je ne me trompe pas.
Oui, Les Frappés Podcast, lesfrappés.podcast.
Voilà. Et puis, je te demande pas quel est ton prochain invité. Si, je peux te demander.
Bah, carrément. Alors, la semaine prochaine, je ne sais pas quand sortira cet
Alors,
épisode.
L'épisode, je te le dis, il va sortir. Alors, aujourd'hui, on enregistre, on est lundi 22 novembre. Et donc, normalement, ton prochain épisode, il sort demain. Alors, qui c'est qu'on va écouter cette semaine ?
Cette semaine, on va écouter Nicolas. Nicolas, qui est un marcheur au long cours. Mmh. Qui a fait tout simplement le tour de la France à pied et à vélo en deux étés et qui nous explique comment il a fait ça justement sans sponsor, sans moyens et sans expérience préalable. Donc tu vois, c'était une bonne introduction aujourd'hui et c'est juste génial. Donc foncez l'écouter. Mmh.
Voilà, je mettrai le lien, bien entendu, hein, vers toutes les plateformes, etc. Et puis, si vous allez voir sur le site, vous allez voir en site, il y a des invités. Alors, qu'on a eu en commun, hein, parce qu'on parlait de Sylvain Lyric, on parlait de Lilian. Et puis, on va le dire aussi, hein, c'est que tu as eu des militaires, t'as des profils qui sont vraiment très variés. Hein, y a vraiment tous les sports, tous les types de profils aussi. Hein, on parlait de bateaux, on parlait de plein de choses. Donc, c'est vraiment très intéressant. Puis en plus, c'est très bien réalisé hein, au niveau de la qualité de son,
merci,
etc. C'est les petites intros, etc. Donc, je dois le dire. Donc, c'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant de faire couvrir. Parce que nous, là, on est tous en train de courir pendant des heures et des heures. On cherche quoi se mettre dans les oreilles. Et donc, c'est aussi un petit peu mon rôle de leur mettre aux éditeurs du bon contenu dans leurs oreilles pour qu'ils aient des trucs en plus. Parce que je me suis rendu compte d'un truc, c'est que pour plein de gens, ça les aide à courir encore plus, tu vois, à bouger encore plus. Et ça, moi, c'est un truc pour lequel je milite, tu vois, très, 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 très fort. Et donc, c'est pour ça que je trouvais que c'était vraiment très intéressant. En tout cas, écoute, Loïc, je te souhaite une belle continuation, une belle réussite dans tous
Merci
tes projets.
À toi aussi.
Dans le plus grand, la paternité. Là, vraiment, sacrée aventure. Hein.
Ouais. On essaie de s'y préparer, tu vois. On parlait de ce à quoi on peut se préparer, puis ce qu'il va falloir accepter. Là, on fait le max pour se préparer, mais c'est quand même l'inconnu.
Alors, si je peux te donner une recommandation, relis Epictète. Vraiment, parce que entre ce que tu peux maîtriser et ce que tu ne maîtrises pas du tout. Et moi, on m'avait toujours dit que la première année était la plus compliquée, et je me rends compte que plus ça grandit, et plus ça devient compliqué. Donc voilà, c'est fait partie des choses. Mais ce qui n'empêche pas de se lancer des défis, hein, je le dis aussi, même si me préparer un Ironman la première année après la naissance d'un bébé, je ne sais pas si c'est possible vraiment, à moins d'avoir vraiment une organisation qui est vraiment, vraiment super carrée. Mais je pense que ça te donnera aussi plein d'idées d'invités, tu sais, pour leur demander comment eux ils font, comment ils ont géré ça. En tout cas, moi, j'ai hâte d'écouter la suite, tu vois. Je me suis abonné, hein, je l'ai mis dans mon truc, je prends des notes avec mes applications, des petites phrases, des choses comme ça. Et je te remercie pour ce podcast qui donne qui donne envie de bouger aussi sur des choses comme ça et qui complète aussi un petit peu tout ce qu'on voit.
Génial. Bah écoute, un grand, grand merci Bertrand de m'avoir donné l'opportunité de partager un peu mon parcours, l'histoire du podcast. Et tout le meilleur à toi aussi pour la suite, des différentes courses. Je vois des dossards derrière toi, j'ai la chance de te voir moi pour cet épisode. Donc curieux de voir quels sont les prochains que tu vas épingler au mur.
Je vais te dire qu'un truc, c'est qu'il n'y en a pas de prévu. Aucun n'est prévu. Cette année 2021, sera une année sans dossards. Ça, c'est officiel, c'est acté, une année sans dossards. 2022 sera peut-être une année avec un peu plus de dossards, mais mon grand projet à moi, c'est l'Enduroman 2022, Ironman 2023 et Marathon de Paris Open 2024 pour les Jeux Olympiques. Tu sais, là, moi aussi, je veux faire mes Jeux Olympiques, hein, voilà, à ma manière, champion du monde de mon monde. C'est ce que je nous souhaite tous. Et d'ailleurs, on en parlera très prochainement parce que j'ai des invités qui, eux, ils ont gagné leur dossard pour le Marathon de Paris. Mais ça, je réserve ça aux auditeurs la prochaine fois, leur expliquer comment eux, ils ont fait pour avoir le dossard pour le Marathon de Paris des Jeux Olympiques 2024 officiels, etc. Ça fait partie des petits trucs, énormes et tout. Le rêve qu'on ait beaucoup à voir. Mais ça, moi, je le réserve à mes auditeurs dans les prochains épisodes. En tout cas, ce sera la surprise très bientôt. Écoute, Loïc, sur ce, je te remercie beaucoup pour ton temps. C'était super génial de pouvoir discuter avec toi de tous ces sujets-là. Je pense qu'on aurait pu discuter encore beaucoup plus longtemps. Mais Il est temps maintenant de nous quitter. Je te souhaite une belle continuation. Et puis nous, les auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.
Salut Bertrand.
Bon, c'est encore moi. J'ai un dernier petit mot à vous dire avant de vous laisser écouter un autre épisode de podcast. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous abonner, bien entendu, au podcast. Vous pouvez le faire sur Spotify, Apple Podcasts et tous les lecteurs de podcasts. Mais aussi, si vous le voulez, à laisser une petite note 5 étoiles sur Apple Podcasts. Vous savez que ça aidera le podcast à se faire découvrir et à permettre à plein de gens de découvrir aussi les vertus du mouvement. Allez, ce coup-là, je vous laisse et je vous souhaite à tous une très belle journée.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.